Europe 1,
16h-18h, l'équipée sauvage.
Chaque après-midi, nous sommes avec Mathieu Noël pour se vider la tête tout en se la remplissant. 2 heures, oui, pour parfaire sa culture générale et bien sûr dans la bonne humeur. Autour de Mathieu Noël, il y a Eva Roch, les journalistes de la rédaction d'Europe 1 avec un sujet captivant, étonnant, car l'équipée sauvage c'est aussi une compétition, sans oublier l'invité d'honneur, donc bienvenue pour cette compilation du week-end en compagnie aujourd'hui de l'écrivain Daniel Picouli, du chanteur de Dionysos Mathias Malzieux, il y a aussi le chef cuisinier de Top Chef sur M6 Michel Saran, le duo Akhenaton Shuriken du groupe IAM et Bérangère Krief qui était invité lors d'une spéciale Saint-Valentin, c'était le 14 février dernier lors de l'émission en public avec parmi les chroniqueurs Alain Sirot.
Il est un de nos journalistes les plus rigoureux. Pour chaque chronique, il passe plusieurs heures devant son écran d'ordinateur à explorer le net à la recherche d'infos, souvent en mode navigation privée.
C'est quoi ça?
Oui, bref, alors Alain Sirot, pour notre spécial Saint-Valentin, vous avez choisi de nous parler du métal de l'amour par excellence, l'or.
Oui, c'est symbolique l'or. Si, Bérangère, je vous offre de l'or pour la Saint-Valentin, c'est parce qu'il est rare, comme notre amour finalement.
C'est comme cet animal. Il continue sa mise en scène. Il a rangé un peu.
Un jardinier brun.
J'ai bien écouté. Il est rare, vraiment très rare, et c'est pour ça qu'il vaut cher. D'ailleurs, si on regardait tout l'or récolté par les chercheurs d'or sur la Terre depuis que l'homme est là, ça serait juste un cube de 20 mètres sur 20 mètres. Vous voyez, c'est pas beaucoup.
Non.
Ah ouais, ouais.
Vous êtes sûr de ce chiffre, Alain?
Certain, parce que c'est très très rare. En fait, l'or, on le trouve vraiment dans des filons aurifères. Il faut vraiment... très précisément, je crois que c'est... 1 mg par tonne de roche qu'on trouve de l'or sur Terre.
Ah,
et ce que l'on sait, c'est qu'il ne vient pas de la Terre. Il n'a pas été fabriqué sur Terre. Personne ne fabrique de l'or, pas plus qu'on fabrique de l'uranium, de l'argent, enfin des produits lourds, tout simplement parce que quand vous regardez une molécule, enfin pardon, un atome d'or, c'est 79 protons et 118 neutrons. Voilà, vous êtes au courant maintenant, vous savez tout. Pour fabriquer ça, il faut une énergie colossale. C'est-à-dire des milliards de degrés, et ça, on ne sait pas faire. Donc,
le soleil, peut-être, Alain. Alors, c'est une hypothèse que je lance comme ça. Et si on nous écoute à la NASA, peut-être qu'ils rebondiront dessus.
Eh bien, figurez-vous qu'on y a pensé, mais qu'il n'est pas assez chaud. Et que pour que ça soit suffisamment chaud, il faut que ça se passe à l'intérieur d'étoiles qui explosent, ce qu'on appelle des supernovas. Au moment où la supernova explose, alors il y a des milliards de degrés, et à ce moment-là, les composés qui sont à l'intérieur se transforment et peuvent fabriquer de l'or. Mais là, encore une fois, il n'y en a pas assez non plus. Donc, ce qu'on a pensé, c'est que ce qui restait de l'étoile qui avait explosé, ce qu'on appelle une étoile à neutrons, c'est-à-dire vraiment quelque chose de très, très dense, de très, très costaud et tout, pouvait rentrer en collision avec une autre étoile à neutrons. Alors là, je vous emmène, vous êtes dans l'espace, vous avez deux résidus d'étoiles
très grosses. Putain, il s'est dragué, lui. Il t'emmène dans l'espace,
qui
les trucs à neutrons.
Qui ont explosé et qui vont rentrer en collision et qui vont créer, par une violence inouïe, une énergie colossale, une température incroyable, à la fois une vibration de l'espace-temps qui va bouger et en même temps créer de l'or et des tas de produits très compliqués. Et ça, on l'a vu, on l'a entendu, on a enregistré ces mouvements de l'espace-temps. Sauf que, alors si, une chose importante, on a même calculé combien d'or il se fabriquait à ce moment-là. Et figurez-vous que c'est l'équivalent de 10 fois la Lune en masse. 10 pleines lunes. 10 lunes, en fait, en or. C'est, voilà, le résultat de la collision entre ces deux étoiles entre eux.
Bah là, celui qui chope ça, il est blindé ensuite.
Oui, sauf que ça ne suffit pas. Et ça, c'est extraordinaire, c'est qu'on s'est dit que... Parce qu'en fait, ce genre de collision, ça arrive une fois tous les 100 000 ans dans la galaxie. Donc, ce n'est pas beaucoup. Donc, il faut trouver autre chose. Et la dernière investigation, on n'est pas encore complètement sûr que ça fonctionne comme ça, mais c'est l'idée qu'une sorte d'étoile très grosse... Vous savez, les étoiles, c'est... le Soleil est une bonne étoile... Mais on trouve des étoiles qui sont plusieurs centaines de fois plus grosses que le Soleil. Bien, lorsque certaines de ces étoiles meurent, elles se transforment en trous noirs. C'est-à-dire un monstre de gravité qui fait qu'on ne peut même plus décrire ce qui se passe à l'intérieur. C'est que des infinis, en quelque sorte. Et autour de ce trou noir, il y a un disque de débris qui se crée. Et dans ce disque de débris qui tourne à très, très grande vitesse avec des énergies incroyables, pourrait se fabriquer tout l'or qui manque. Et là, on fait des calculs et on trouve que, finalement, c'est très productif. Et ce disque de débris partirait dans l'espace et irait ensemencer les étoiles futures, les planètes futures, dont, par exemple, la Terre. Alors voilà, je vous ai emmené dans des collisions d'étoiles, au bord des trous noirs. Je vous ai montré, finalement, des milliards d'années aussi à travers ce petit bijou, vous montrer à quel point il est rare et vous dire que, finalement, vous ne pourrez plus jamais regarder l'or de la même façon. Vous saurez vraiment que c'est un cadeau si on vous l'offre qui vient du ciel et qui a été fabriqué, forgé dans les étoiles.
Wow. Alain, vous ne faites pas souvent des chroniques pourries, mais celle-ci était vraiment bien. Bravo Alain Sirou.
Bravo.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipée sauvage.
En raison d'hivers de plus en plus doux, les cigognes migrent de moins en moins loin. Certaines vont encore en Afrique, mais d'autres s'arrêtent en Espagne ou ne partent plus du tout. On en a parlé en tout cas dans l'équipée sauvage avec Mathieu Noël, Eva Rock et l'un de nos correspondants.
Bonjour Henri de la Guérie.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Alors, vous êtes le correspondant d'Europe 1 sur la péninsule ibérique et vous allez nous parler d'une conséquence du réchauffement climatique. Les cigognes ne migrent plus jusqu'en Afrique.
Eh bien non, Mathieu, elles s'arrêtent désormais en Espagne. Vous savez, il y a encore quelques années, tels des touristes qui s'en vont aux Canaries ou au Sénégal en hiver, les cigognes fuyaient également les basses températures. Elles prenaient la route du Sahel. Le voyage était un peu plus long qu'un vol charter. Il fallait compter à peu près un mois pour rejoindre l'Afrique. Un voyage périlleux, épuisant, mais cette grande migration est donc presque terminée, selon le travail de l'ONG CO BirdLife. 80% des cigognes blanches qui vivent en France, en Alsace notamment, ou dans l'Europe centrale, s'arrêtent désormais en Espagne. La hausse des températures leur permet de s'épargner ce voyage éprouvant à travers la Méditerranée et le désert. Vous savez, cet après-midi, il fait par exemple près de 25 degrés en Andalousie. Et pour arriver à ces conclusions, l'ONG a suivi les déplacements de 79 cigognes pendant 7 ans.
Mais alors là, le réchauffement climatique a quelque chose de bon, finalement.
Oui, oui et non, parce qu'en Espagne, l'alimentation de ces cigognes laisse à désirer. Elles se nourrissent dans des décharges. Elles avalent donc sans le vouloir du plastique et certaines d'entre elles s'intoxiquent. Celles qui s'installent dans des marais ou des rizières en Espagne ou dans le sud de la France, près de Narbonne notamment, mangent des écrevisses américaines. C'est une espèce qui prolifère dans le sud de l'Europe. Résultat, les cigognes se retrouvent avec le bec orange. C'est pas très très grave, mais bon, en tout cas, c'est le même principe que pour le flamand, vous le savez, qui devient rose en mangeant des crustacés.
En tout cas, les cigognes reviennent plus vite chez nous ensuite.
Oui, et c'est en ce moment qu'elles repartent donc vers la France ou ailleurs. Elles repartent très vite, deux fois plus vite au retour qu'à l'aller, savez-vous. Pourquoi, Mathieu ?
Le Gulf Stream.
Non, mais oui, c'est les vents, non ? C'est pas les vents ?
Non, c'est qu'elles sont motivées, très motivées, parce qu'elles rentrent pour se reproduire. Voilà, ça motive.
Ah, mais donc, et ça les fait aller deux fois plus vite de savoir qu'elles vont se reproduire.
Exactement.
Mais comme vous, Eva, quand vous rentrez après l'émission, par exemple, et que vous savez, les soirs, vous savez, voilà, quand vous savez qu'il faut. Voilà, vous allez deux fois plus vite, j'ai calculé. Merci beaucoup, Henri de la Grille, pour cet éclairage animalier qui s'est prolongé en studio de manière un peu fortuite.
Grivoise.
Grivoise. Merci beaucoup.
L'équipe est sauvage sur Europe 1, 16h, 18h.
Avec Mathieu Noël, Eva Rock et avec à présent Mathias Malzieux, le chanteur du groupe Dionysos, c'était ce mardi sur Europe 1.
Vous êtes vraiment un artiste qui touche à tout, dans tous les domaines vous inspire.
Ben en fait, j'aime bien raconter des histoires. Donc après, c'est pas plus un concept que ça, c'est du désir. C'est du désir et de l'aventure. Ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai commencé à avoir envie de raconter cette histoire de personnage qui se croit immunisé face au sentiment amoureux parce qu'il a été brisé, je me suis dit qu'est-ce que je pourrais lui mettre de pire et de mieux entre les mains à celui-ci pour qu'il se remette en question. Et je me suis dit, bah, l'ultra femme pour un chanteur, bah, c'est une sirène, parce qu'elle tue avec sa voix. Donc c'est exactement ce qui peut lui arriver de pire et de mieux. Ensuite, il y a eu tout ce contexte de la crue de 2016 qui m'a beaucoup amusé.
Ah ça, c'était une source d'inspiration.
Ah oui, j'ai trouvé ça très poétique d'avoir des petits canards qui grillent des feux rouges, des voitures remplies comme des aquariums et que le marquage au sol plonge dans la scène comme dans un film de Miyazaki. Quoi. Il y avait un truc assez magique, un peu embêtant, mais quand même un peu magique. Et puis on avait trouvé aussi un vieux silure pas très ragoûtant sur les berges échouées. Je me suis dit, si je mettais ma sirène à la place. J'avais déjà cette idée de relation entre ce personnage et la sirène. Et je me suis décidé de la mettre à Paris à ce moment-là.
Ce que j'aime bien, et dans le film, on l'a pas vu le film encore,
oui.
Mais rien que dans le pitch du film, ce que vous racontez, ce qui est fou, c'est la densité. Alors la densité poétique, c'est-à-dire que souvent on a une bonne idée, par exemple, beaucoup se seraient arrêtés à l'idée
de la sirène.
Ouais. Paf, c'est déjà assez rigolo, c'est féerique, tout ça. Mais vous, derrière, on sent que vous avez réfléchi à chaque petite chose dans le film, et c'est ça qui est prometteur.
Oui, bah en fait, je me suis amusé, tout simplement. Ça fait 4 ans que je vis en immersion totale là-dedans. C'est-à-dire que j'écris le livre en même temps que le script. En même temps que les chansons.
Vous imaginez le film en écrivant le livre.
Ouais, j'ai vraiment fait les trois en même temps. Et du coup, les chansons de Dionysos, que vous avez entendues là tout à l'heure, en fait, c'est les chansons de Gaspard.
Donc du film.
C'est comme si on avait fait un album de reprise, un album de reprise d'un personnage imaginaire.
Dionysos existe depuis 27 ans. C'est une longévité très rare pour un groupe, encore plus rare pour un groupe de rock.
Oui.
C'est quoi le secret ?
La passion. La passion, le fait qu'on s'aime un peu comme une famille, hein. C'est une espèce de tribu. Du coup, il y a une excitation. C'est pas comme faire un disque de plus ou faire de la musique, juste il y a une idée Dionysos derrière.
L'excitation, on la comprend, mais souvent dans les groupes, il y a des histoires de filles, des histoires de... Enfin, il y a
des disputes,
des querelles d'ego aussi.
Bien sûr.
Ça vous est déjà arrivé ?
Non, en fait, on n'est pas toujours d'accord, et c'est le jeu du débat, mais c'est très démocratique dans le groupe.
C'est pas vous qui décidez tout de manière autocratique comme moi ici, par exemple.
Non, j'assume complètement mon rôle de capitaine de bateau quand même,
ouais.
Parce que j'arrive avec les chansons et tout, donc, mais après, c'est des vraies chansons dionysoses dans la mesure où on les arrange ensemble. Et que j'aime ça, c'est-à-dire que si je continue à vouloir faire des disques de Dionysos, c'est parce que je les aime humainement et artistiquement et que je me sens libre et que c'est toujours la grande aventure avec eux.
J'ai envie de dire la même chose pour nous, mais je ne suis pas sûr. Oui. Emma.
Est-ce qu'un autre des secrets de votre longévité ne tient pas justement au fait que vous arrivez à créer de ces univers incroyables qui tiennent qu'à vous, en fait ? Parce que quand on parle du film, du disque, etc., on comprend bien que vous avez un univers à part entière et il n'y a aucun autre groupe qui crée ça.
C'est vrai que peut-être que ça a été naturel il y a une dizaine d'années de casser le rythme album, tournée, tournée, album, tournée. J'ai commencé à avoir envie d'écrire des nouvelles. Les nouvelles venaient des chansons, puis les chansons m'ont donné envie de faire des clips, puis les clips, des films. En fait, il y a toute une petite arborescence qui s'est créée comme ça, une chasse au trésor. Et j'ai l'impression de pouvoir me le fabriquer moi-même avec le groupe et avec tout l'univers autour.
Moi, monsieur, j'ai une question. un peu râlée pas de crête, hein, ma question. Mais financièrement, comment ça se passe ? C'est-à-dire que quand on est un artiste qui a le succès, par exemple Dionysos, on sait que ça cartonne, c'est un groupe. Donc j'imagine que vous avez une production qui vous dit il faut sortir un album, faire une tournée, sortir un album, faire une tournée. Comment vous dites, ok les cocos, on va faire ça, mais moi je vais prendre du temps pour faire un film, je vais faire un livre, je vais faire une expo, je vais partir en Norvège. Mmh. Est-ce que ça se deal comment ? Et c'est compliqué à faire ou on vous déroule le tapis rouge pour tout ? Ou parfois vous devez vous battre pour
certains. Non, il faut se battre sur tout.
Sur tout.
Il faut se battre sur tout, tout le temps.
Il se bat sur tout, tout le temps, pour notre plus grand plaisir.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1.
Alors attention Mathias, soyez vigilants, voici le coup. Aujourd'hui, ça va être un hommage à l'héroïne de votre film Une sirène à Paris, puisque nous allons faire un quiz mi-femme, mi-poisson. Nous allons vous poser des questions sur les femmes.
Et Eva,
des questions sur les poissons. Là, vous comprenez que je découvre le thème du quiz en le lisant et que je suis effondré. Et je dois néanmoins assumer puisque je porte cette émission. Et alors, attention, une bonne réponse, un point, c'est parti. Eva Rock, voici trois poissons. Lequel de ces poissons n'existe pas ? Le poisson lièvre, le poisson castor ou le poisson mouche ?
Je dirais le poisson castor.
Ce qui serait bien, c'est de tisser un raisonnement logique. Parce que là...
Non, après, vous allez vous foutre de moi.
Oui, c'est possible.
Mais poisson castor, il aurait des dents un peu bizarres. Non,
il
ça marche pas.
Il aurait des dents un peu bizarres. Oui, comme un castor.
Ouais.
Logique. Ouais. Et non, c'est le poisson mouche qui n'existe pas.
Ah, j'étais persuadée qu'il existait, le poisson mouche.
Et non, c'est la pêche à la mouche qui existait. Oui. Vous avez confondu. Et les neurones se sont percutés. Alors, le poisson castor existe. Il a une queue qui ressemble à celle du castor et non pas des petites dents.
Voilà, je me suis bien retenue d'évoquer cette anatomie-là du poisson.
Bien sûr. Le poisson lièvre est originaire de la mer Rouge et attention, si vous le croisez, il est toxique pour l'homme. Eva Rock, Mathias Meldieu, vous jouez tous les deux. Je vous présente Aelia Kirstine. Ce n'est pas une sirène. C'est une femme, mais elle a une passion très animale qui a un grand succès sur les réseaux sociaux. Laquelle ? Elle galope à la façon d'un cheval. Elle fait même du saut d'obstacle.
Toute seule sans cheval.
J'ai hésité entre le bruitage du cheval et le bruitage du saut.
Ouais.
Ça a donné quelque chose qui n'avait aucun sens, surtout en
mais
radio.
Mais donc sans cheval ?
Ah bah oui, sans cheval, sinon ça n'aurait pas de sens, sinon ça ferait juste du jumping en fait.
c'est quand même très très idiot, allez-y.
Oui. Oui. Elle s'est fait greffer des cornes de bouquetin et elle est gardienne de musée. Ou alors elle fait le perroquet 24 heures sur 24 en répétant systématiquement ce qu'elle entend quand on lui parle.
C'est les enfants qui font ça.
Quelle est sa passion à cette femme ?
Moi je suis presque sûre que c'est la première, le cheval.
Elle galope sur le cheval sans avoir de cheval.
Oui.
C'est votre réponse, c'est baroque. Mathias ?
Ouais, moi je serais pour ça aussi.
Oh, mais nous avons affaire à des champions, effectivement.
Mais oui.
Elle trotte ou galope, parce qu'elle peut adapter les deux.
Elle
deux
est
vitesses.
Sur les réseaux sociaux.
Exactement comme un cheval. Elle saute des obstacles exactement comme un pur sang. Victime de moquerie, elle a supprimé, hélas, son compte Instagram. Mais ses fans ont fait des sauvegardes. Si vous tapez dans Google femme cheval, vous trouverez facilement la vidéo. Mathias Meldieu, c'est une femme qui a inventé le lave-vaisselle. Vrai ou faux ?
Je crois que c'est vrai.
C'est vrai.
Oui.
Josephine Cochrane, qui vivait dans l'Ohio, elle en avait marre que ses domestiques cassent la vaisselle en porcelaine. En 1886, elle a inventé le lave-vaisselle. Elle aurait déclaré « Si personne ne veut inventer la machine à laver la vaisselle, je le ferai moi-même. »
Oui, c'est bien.
Oui, beau commentaire, Eva.
Ouais,
Eva
Rock, attention.
Je n'ai pas conscience du score actuel, mais en tout cas, c'est la dernière question.
Pour l'instant, c'est Mathias qui gagne, évidemment.
Dans le Tarn habite François Rock, certainement un parent à vous.
Oui.
Il fait du cuir avec de la morue. Vrai ou faux?
Ah mais ça, alors ça c'est possible.
Alors je ne vous demande pas dans ce quiz ce qui est possible ou pas.
Non mais je vous dis,
si c'est vrai,
je vous dis vrai
ou faux. Vous me dites vrai?
Oui, parce qu'on peut faire, on fait du cuir avec les peaux de poisson.
Le quiz serait-il en train de basculer? Et non, vrai. C'est faux. François existe bel et bien. Il habite bel et bien dans le Tarn. Et il fait bel et bien du cuir, mais pas avec de la morue. Avec du thon.
Ah,
il est
le
premier et le seul tanneur de cuir de thon au monde. Victoire de Mathias Mazieux. Oh, bravo.
16h, 18h sur Europe 1. L'équipée sauvage.
Avec Mathieu Noël, l'occasion de se replonger dans les émissions des semaines passées. C'est la compilation du week-end avec des invités et les sujets de nos chroniqueurs compétiteurs. L'occasion, par exemple, de redécouvrir celui d'Ève Roger sur l'alcoolisme au féminin et en présence de l'écrivain Daniel Picouli.
Vous nous parlez cet après-midi d'un sujet qui a longtemps été tabou, l'alcoolisme féminin.
Alors on va commencer avec un chiffre, hein, comme souvent, 10% des Français ont un problème avec l'alcool. Alors on va évacuer tout de suite, qu'est-ce que ça veut dire avoir un problème avec l'alcool? Oui. Ça veut dire ne plus avoir le choix, c'est-à-dire c'est, je bois ou je bois pas, c'est forcément oui. Et dès le réveil, penser au moment où on va boire dans la journée. Et ça parasite toute la journée.
Ça, c'est la définition de l'alcoolisme?
C'est une façon de comprendre si on a vraiment un problème avec l'alcool. C'est-à-dire, vraiment, je suis obligée de boire et j'y pense toute la journée. Et donc, c'est difficile de dire combien il y a de femmes dans ces 10%. C'est que les femmes, aujourd'hui encore, boivent 3 fois moins que les hommes, mais que l'écart tend à se réduire pour la génération 2000, pour les 18-25 ans aujourd'hui. Donc, c'est difficile à évaluer aussi, parce que vous l'avez dit, c'est un sujet tabou. Des hommes, on dit encore qu'ils ont une bonne descente, ils peuvent boire en groupe, ils peuvent boire à plusieurs, mais les femmes, elles se cachent, elles boivent seules et le vivent avec un double sentiment, à la fois de culpabilité et puis de honte.
Et que sait-on alors du profil de ces femmes?
Alors, le plus étonnant, je vous l'ai dit, les plus touchées ne sont pas celles qu'on croit, ce sont les femmes qui réussissent socialement, qui donnent le sentiment d'avoir confiance en elles, des femmes qui ont de hautes responsabilités professionnelles mais aussi familiales. Donc, elles utilisent l'alcool comme un anti-stress, un anxiolytique, sans ordonnance, c'est quand même assez facile d'acheter à boire, pour se détendre après une journée de travail épuisante. Et la situation la plus courante, c'est la femme qui rentre chez elle, qui part en cuisine faire le dîner, qui cache la bouteille derrière le robot mixeur, qui boit et qui se met à table comme si elle n'avait pas bu avant. Donc ça, c'est quand même très courant. Et donc, on va écouter Ariane Pommery. Elle a été pendant 20 ans juriste dans une entreprise. Et de 25 à 42 ans, elle a bu comme ça tous les soirs, beaucoup trop. Et elle a vécu cet alcoolisme seule comme une honte.
Je passais mon temps à me cacher, je me surmaquillais. Je me disais à chaque fois, est-ce que ça se voit, est-ce que ça se voit pas quand on me parlait. Moi-même, je me disais, mais moi, je suis une mère de famille, j'ai un travail, donc je ne peux pas être alcoolique. Parce que dans ma représentation, l'alcoolique, c'était la femme qui était la SDF, celle qui n'avait pas de travail, celle qui battait ses enfants, celle qui était une mauvaise mère.
Voilà, difficile aussi, on est beaucoup dans le déni. Et dans l'histoire de ces femmes aussi, il y a souvent quand même des violences, qu'elles soient physiques ou psychologiques.
Et est-ce que les femmes sont soignées de façon différente des hommes?
Et oui, alors justement, parce que le déni est très fort, donc il faut quand même aller les chercher. Il faut aller leur dire que c'est une maladie, que ce n'est pas une tare de boire de l'alcool. Et puis travailler avec elles sur la confiance en soi. Et là, je voudrais vous présenter une femme formidable qui s'appelle Fatma Bouvet de la Maisonneuve. Elle est psychiatre addictologue. C'est elle qui m'a raconté tout ce que je sais. Elle explique que chez ces femmes, à l'origine du trop-plein d'alcool, il y a une blessure, une cassure qui a stoppé la réalisation d'un rêve ou d'un projet. Et elle emploie une jolie expression. Elle dit, il y a eu un rendez-vous manqué et la prise en charge, tout le soin consiste à retrouver cet endroit de la rupture pour ensuite reprendre son chemin. Écoutez-la.
Ces femmes-là ont souvent un potentiel créatif très important et c'est vers là qu'on doit aller parce qu'elles vous disent, mais finalement, où est-ce que je vais ressentir ces sensations fortes que je cherche? Eh bien, les sensations fortes peuvent être retrouvées dans un rêve qu'on essaye de réaliser et ça donne des sensations fortes, beaucoup moins toxiques et beaucoup moins nocives que l'alcool. Mais ce sont des chrysalides qui se transforment en papillons. C'est la conquête de la liberté.
Quand vous l'écoutez, ça paraît si simple de passer de chrysalide à papillon. Et pour ça, toutes les femmes qui nous écoutent, je peux que leur conseiller de rejoindre l'association de Fatma Bouvet de la Maisonneuve qui s'appelle Addictel. Addictel. sont-elles ? Voilà.
C'est extrêmement compliqué cette question de l'alcool, notamment pour les hommes. Il y a encore une dimension par la littérature aussi, une dimension romantique presque de l'alcool, qui apparemment est complètement absent dans la tête des femmes qui disent il faut au contraire donner le change et montrer qu'on, enfin cacher ça.
Faire semblant. Faire semblant.
Ça rend la chose encore plus compliquée.
Bah, on n'imagine pas un Bukowski femme venir à la télévision avec sa bouteille. Ouais. Et l'image de la femme et d'alcoolisme, elle est quasiment statufiée dans Nana et dans la Semoir, Zola, c'est-à-dire des femmes qui finissent par se battre et se battre entre elles, pas contre les hommes, mais entre elles. Donc c'est aussi des images comme celles-là qui sont très fortes, que ce soit en littérature ou au cinéma.
Europe 1, 16h-18h, l'équipée sauvage.
Et on reste avec Mathieu Noël, sa complice Eva Rock, pour revivre les moments phares de cette équipée sauvage. Une compétition qui se poursuit maintenant en présence de deux membres du groupe IAM, Akhenaton, Shuriken et avec Fred Goati.
Fred, aujourd'hui, pour remporter la margoulette, comme disent les jeunes, vous misez sur Ella Fitzgerald.
Je vous disais tout à l'heure deux ou trois choses. Alors là, la première, c'est qu'il faut aimer Ella Fitzgerald à la folie. Sinon, je ne vois pas l'intérêt. On ne peut que l'aimer à la folie, s'il vous plaît. Alors, elle a incarné pendant 60 ans, vous vous rendez compte, 60 ans de carrière, une sorte d'idéal de la chanteuse de jazz. Belle, radieuse, magnifique. Mais derrière ce sourire radieux, il y avait quand même, de temps en temps, quand elle chantait dans un mode plus intimiste, on devinait les fêlures de la vie. Parce qu'elle a eu une enfance difficile. Elle a été, par exemple, internée dans une école de correction très raciste. Un jour, quand elle avait 11 ans, il y a un type qui l'a traitée de négresse. Elle l'a poussée par terre. Elle est devenue l'héroïne du quartier. Voilà. Et un jour, elle s'est inscrite à un concours de jeunes talents. Alors, il y avait de la danse, il y avait de la voix. Elle était fascinée par la danse. Alors, elle voulait être danseuse, en fait. Et elle était tellement fascinée par les danseuses qu'il y avait ce soir-là, qui étaient des danseuses acrobatiques, elle a perdu tous ses moyens. Elle a failli s'évanouir. On lui a quand même poussée sur scène. On lui a dit « Fais quelque chose, chante quelque chose !» Elle a chanté une chanson qui s'appelait « Judy ». Elle a obtenu un triomphe. Et voilà, sa vie a commencé. Et elle est vraiment née en fait en novembre 1934, parce qu'elle a donc fait ce concours. Et puis ensuite, 4 ans après, elle est devenue la chanteuse de l'orchestre de Chick Webb, qui était un très très grand batteur de jazz à l'époque. Et elle a obtenu son premier succès, « A Tisket, a Tasket ».
A tisket, a tasket, a brown and yellow basket.
Alors avec cette chanson, elle a battu tous les records de vente. Je me mélange les
époques. Combien de vues sur YouTube ?
De vente de 78 tours. Et oui, les disques tournaient à 78 tours à l'époque. Alors elle est devenue rapidement la première dame du swing, the first lady of swing. Mais attention, elle n'a pas voulu se cantonner à ça, puisque dans les années 40, il y a un nouveau style de jazz qui est né, le bebop. Elle a tourné avec Dizzy Gillespie, grand trompettiste bebop, et elle a appris à scatter. Pourquoi ? Pour s'élever au niveau des grands solistes. Alors, si j'avais une heure devant moi, j'essaierais de vous expliquer ce que c'est que le scat. Mais Ella Fitzgerald, présentée par, messieurs, ceci est une spéciale dédicace, présentée par Big Daddy Kane, un des plus grands rappeurs, eh bien, Ella va vous expliquer en quelques douap-douap ce que c'est que le scat.
Allow me to tell a story about Ella Fitzgerald, whose sound can never be sterile. A woman with flexibility of range, making octaves change. Go ahead, do your thing.
Beep, bop, beep, shiver.
Mais là, attention.
C'est incroyable. On a l'impression que c'est facile, alors que c'est peut-être le truc le plus difficile au monde à faire en musique, quoi.
Alors, moi, j'aimerais juste dire ce que je pense. J'adore le scat, j'adore Ella Fitzgerald, et j'adore quand des rappeurs reprennent des bouts de. J'avais une chanson avec Ray Charles, notamment, et j'adore ça. J'aimerais bien qu'Ayam fasse ça un jour. Rien pour moi.
On le fait avec du. Ça s'appelle du sample, mais on en discutait hors antenne, et le sample, c'est devenu très compliqué de reprendre. Parce que.
Les questions de droit.
On peut pas faire ce qu'on veut.
Non, tu peux fortement t'inspirer.
Si on a les budgets de John Williams,
on peut s'en plaire.
Tu nous écoutes. Fred. On en parlera bientôt d'ailleurs de ça. C'est promis, je vous le promets. Donc, elle est devenue une grande scatteuse, une virtuose, mais attention, elle savait aussi qu'il fallait enrichir son répertoire de belles chansons. Alors, elle s'est mise à feuilleter les pages des grands livres des chansons américaines, George Gershwin ou par exemple Cole Porter. Et qu'est-ce qu'il a écrit, Cole Porter ? Une chanson qui s'appelle My Heart Belongs to Daddy. Elle l'a repris ça plusieurs fois. Qui a pris
Marilyn Monroe.
Merci Ella. Eva, pardon. Alors un jour d'avril 55, justement, Marilyn, elle apprend que le patron du Mocambo, un des plus grands cabarets de Los Angeles, ne veut pas programmer Ella Fitzgerald. Pourquoi ? Parce que c'est une artiste noire. Alors elle appelle ce patron, elle lui dit « Moi, je viendrai, je veux que vous la programmiez et je viendrai m'asseoir au premier rang. Comme ça, c'est donnant-donnant. » Ella Fitzgerald est programmée. Pour la première fois, une artiste noire est programmée dans ce club. Elle fait un triomphe. Marilyn l'applaudit, Frank Sinatra est là. Et toute sa vie, en fait, Ella Fitzgerald va garder une photo de Marilyn en souvenir de ce geste qu'elle avait fait pour elle. Alors maintenant, avance rapide, je voudrais qu'on vous fasse écouter un morceau qui a été inspiré par un monsieur qui s'appelait Frankie Gay, qui était le frère de Marvin Gay. Il était revenu de la guerre du Vietnam et il avait raconté les horreurs de cette guerre à son frère et ça avait donné... Talk to me, so you can see. Voilà, tout le monde connaît ça, Marvin Gaye, What's Going On, 1971. À votre avis, est-ce qu'Ella Fitzgerald, elle avait ce petit supplément d'âme nécessaire pour aussi s'approprier ça, comme elle l'avait fait avec une comptine enfantine comme Tisquetos Casquette, ou même une chanson des Beatles?
Facile pour
poser la question, c'est d'y répondre. Alors écoutez bien l'intro, personnellement je trouve qu'elle rappe presque.
Oh, je connaissais pas cette version.
Ah, c'est génial.
Mais où est-ce qu'on la trouve?
Ah bah on la trouve dans un disque de 1972 avec le JATP, l'orchestre de Count Basie.
Il faut vous écrire une lettre, il faut vous écrire un mail, vous nous renvoyez peut-être
bien
le fichier.
Souple et discret. Ah
ouais, souple et discret.
Ça ressemble à lorsque James Brown faisait du, du country preaching.
C'est la même époque.
Voilà, ça ressemble à ça.
Bon. Merci beaucoup Fred Goetti. Jean-Philippe, un mot pour saluer la mémoire d'Ella Fitzgerald?
J'adore les Beach Boys.
Merci. Shuriken Akhenaton, vous êtes avec nous cet après-midi pour la sortie de Yasuke. MC, tu perds ton sang-froid, un des titres de cet album, un des 16 titres de Yasuke. Vous dites quoi sur MC, tu perds ton sang-froid? Vous dites, les gars, accrochez-vous, on est toujours là?
Non, on dit surtout, il faut garder le cap, même quand c'est compliqué, pas modifier sa musique pour courir derrière son audience. C'est ce qui a assuré, je pense, la longévité d'Ayam. Et il ne faut pas perdre son sang-froid, surtout dans les années où c'est compliqué, parce que ça va arriver. Sur une carrière longue, au bout d'un moment,
on a
des moments très fastes et des moments où c'est plus compliqué. Et c'est dans ces moments-là où il faut justement garder son sang-froid et avoir confiance en la musique qu'on fait.
Jean-Philippe Ballas,
j'ai une question, on parlait des voix de Scat. Est-ce que votre flow, à vous, il a évolué en plus de 30 ans?
Il change à chaque morceau, on va dire. Parce qu'en fait, on est des héritiers de la soul et du jazz. Et on adapte les flows en fonction des musiques. C'est pour ça qu'on n'écrit jamais de texte avant la musique.
Ah, c'est toujours dans cet ordre-là, la musique, ouais, le texte.
Toujours, toujours, parce que la musique, elle nous impose des flows, par exemple, dans qui est,
on suit
l'arpège de synthé, et la découpe est exactement celle du synthé, donc on s'adapte vraiment à l'instru qu'on a.
16h, 18h sur Europe 1,
l'équipée sauvage.
On va rester avec Mathieu Noël et Varoc, et maintenant l'invité de ce mercredi, Michel Sarran, hein, le juré du programme culinaire Top Chef sur M6. La nouvelle saison a démarré cette semaine, et donc mercredi, Michel Sarran a découvert le sujet d'Anissé Mbida, le monsieur innovation d'Europe 1.
Anissé, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Michel compte sur vous. Je sens que vous allez en commettre une d'erreur. Imaginez que Michel Sarran va un jour accepter de bouffer de la dinde goût carotte. Oui, ça m'en dit, c'est mal parti, mon grand.
Oui, parce que vous connaissez la viande qui est fabriquée à base de légumes, hein, la viande qui a un goût de viande, la viande végane, mais qui est fabriquée à base de plantes.
Qui a un goût de viande.
Non, je ne connais pas.
Vous ne connaissez pas. Eh bien, découvrez maintenant l'inverse, c'est-à-dire des légumes qui ont un goût de légumes, mais qui sont fabriqués exclusivement à base de viande, notamment légume qui s'appelle la carnirote. Donc c'est une
rien
carotte.
Que le nom est dégueulasse.
Donc c'est une carotte, et en plus elle ressemble à une carotte. Je vous ai
bah, c'est une carotte, ça.
Sur europe1.fr, vous pouvez voir cette image. Effectivement, ça ressemble à une carotte,
ça a un goût de carotte, mais c'est fabriqué entièrement avec de la dinde.
Mais enfin, alors, attendez, excuse-moi, mais voilà, la question, quel est l'intérêt là? Alors, on comprend pas. Dans l'autre sens, on comprend.
Officiellement,
c'est une quenelle avec du persil dans le.
Derrière, on peut le dire.
C'est pas moi qui l'ai dit.
Oui, mais je suis là pour compléter vos phrases, Michel.
Alors, l'intérêt officiellement, c'est pour ceux, je cite, qui ne veulent pas être complices du massacre des légumes innocents. Donc, vous avez compris l'idée. Hein. L'idée, c'est pour se moquer de l'engouement qu'il y a actuellement pour la viande végane, cette viande justement à base de plantes, et donc de prendre le contre-pied de cette mode et de dire, bah voilà, si les gens n'aiment pas les légumes, c'est aussi parce que justement la viande est plus goûtue et beaucoup plus goûteuse.
J'avais pas compris que c'était une blague.
Et puis, c'est toujours pour les papilles. Mais c'est très sérieux, c'est vendu. En fait, c'est un fabricant de hamburgers qui fait de la viande, quoi, et qui va proposer ça aussi, mais c'est avant tout pour se marrer.
Oh, ça, je le veux, c'est génial. La carnirote.
Alors, ils donnent la recette, hein, ils expliquent comment on la fabrique. Hein.
Ah, on peut le faire soi-même.
Filet d'inde.
Bah, tiens, Eva, nouvelle défaite. Oui, ça aboutira à une défaite, mais nouvelle.
Mais je refuse de faire
tous vos défis pour vous. Alors, c'est une technique, mais il y en a d'autres.
Oui, alors, il y a une autre technique, ça, c'est notamment pour les enfants qui ne veulent pas manger de légumes. C'est une cuillère qui transforme les goûts de légumes en goûts de bonbons ou de Nutella. C'est-à-dire que typiquement, on prend une cuillère de quinoa et vous avez l'impression d'avaler une cuillère de Nutella. Vous voulez manger des haricots verts et c'est le goût de l'éclair au chocolat.
Mais comment ? Mais c'est pas possible.
Alors, c'est des chercheurs de l'université de Singapour qui l'ont mise au point. Au départ, ils avaient fabriqué des baguettes et des baguettes avec des petites...
après le passage du coronavirus.
Bon, c'est à Singapour, c'est un peu plus loin. Et donc l'idée, c'est de stimuler les papilles particulières pour donner un goût de salé. Ils ont fait des baguettes qui donnaient un goût de salé. C'est notamment très pratique pour tous ceux qui sont obligés de suivre un régime sans sel. Et ils ont amélioré leur technique avec une cuillère qui, elle, est capable de donner la sensation de sucré, la sensation de Nutella, justement. Et donc l'idée, c'est quand on mange des légumes, on a cette
le doyen
sensation de sucré
ne
qui arrive.
Pas du tout.
Non, mais ça me fait rêver quand même du quinoa qui a le goût de Nutella.
Mais c'est plus on est, quoi. Mais
on est en train de le vivre en direct. Là, vous pensez que vous écoutez une chronique d'Anis Mbida. En fait, vous écoutez n'importe quoi. C'est pareil, ça marche.
Non, mais imaginez, pour un enfant qui n'arrive pas à manger des légumes, vous donnez cette cuillère. C'est hyper pervers parce qu'il aura. Oh, il est vachement bon ton quinoa.
Voilà, et après, quand il sera chez un copain, on lui fera bouffer du quinoa. Il dira oui, du quinoa. Puis il goûtera le vrai quinoa. Voilà. Il dira non, c'est dégueulasse. Ok, alors il faut déjà mettre la cuillère dans sa bouche. J'en connais qui refusent d'avaler tout ce qui est vert, moi.
Oui, bah, tous les gamins qui mangent avec les yeux, qui font le tri dès que c'est vert, ils le mettent de côté.
Alors, comment on fait ?
Là, il y a une technique, c'est une start-up lyonnaise qui a inventé ça. Je trouve ça assez génial. Ce sont des nuggets, des saucisses ou bien des boulettes, mais qui sont faites uniquement à base de plantes
ça,
et de produits
pour
sains,
les enfants, pourquoi pas.
Exclusivement bio. Donc en fait, on prend des produits sains, on prend des produits bio et on les maquille en junk food pour les faire passer aux enfants. Et justement, ils commencent à travailler maintenant avec des cantines scolaires pour inciter les enfants à manger dans les cantines scolaires.
Pour moi, c'est n'importe quoi. Ça
peut être une solution de secours, mais pas l'instaurer dans des cantines. Sinon, après, vous pervertissez l'esprit des enfants. C'est-à-dire, vous leur faites croire que ce qui est bon, c'est la junk food, enfin, ce qui a la forme de nuggets, quoi.
Mais il est là le problème. En fait, c'est que on est obligé de maquiller, de camoufler les légumes pour les faire manger aux enfants.
Non,
moi, je me pose la question. Justement, la question. Est-ce qu'il n'y a pas une technique pour que justement on ait envie de manger des légumes et qu'on ne soit pas obligé de les trafiquer faire ressembler à autre chose ?
Il faut bien les cuisiner.
Tout simplement.
Tout simplement. Et je vous assure, parce qu'on parle des enfants, mais j'ai aussi les réflexions dans mon restaurant. J'aimais pas les artichauts, je me suis régalé. Ou j'aimais pas les navets, je me suis régalé. Donc après, il y a une façon de les cuisiner. C'est qu'aujourd'hui, le gros problème, c'est qu'on a perdu l'acte culinaire. On cuisine plus à la maison. Donc c'est juste, soit on achète des produits déjà fabriqués, préfabriqués, et qui sont pas terribles. Et si on commence à acheter des nuggets de je sais pas trop quoi, qui ont goût Nutella, qui sont faits avec du quinoa, je sais pas trop quoi, c'est foutu. Mais d'abord, c'est fédérateur et c'est rassembleur dans une cuisine. Je trouve que d'avoir perdu cet acte et ce geste culinaire où on est ensemble, on partage, ça fait des dégâts. Et je vous assure que faire manger des légumes à des enfants et à des adultes, c'est tout à fait faisable. Et je crois qu'il ne faut pas les transformer plus que ça. Et pas s'amuser à faire de la mutation génétique. C'est n'importe quoi. Là, vous me racontez n'importe quoi. Je suis désolé.
Je me souviens d'un chef, justement, qui a essayé de dégoûter les enfants des nuggets et qui leur a montré comment ils étaient faits. Oui. La carcasse dont on arrache, qu'on broie, etc. Les enfants lui disaient ah. Et quand ils ont vu la nuggets terminée à la fin, ils sont c'est terrible comme
bien sûr.
Il était dégoûté parce que justement, c'était complètement contre-productif ce qu'il avait essayé de faire.
En tout cas, on remercie Anis Mbida.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Avec Mathieu Noël et avec à présent la comédienne et humoriste Bérangère Krief qui a affronté le 14 février dernier Eva Rock, la grande complice de Mathieu Noël. Donc sur un quiz spécial Valentin, puisque c'était il y a un petit peu plus d'une semaine, lors de l'émission publique, Bérangère Krief qui était invitée à venir nous parler de son nouveau spectacle baptisé Amour.
Bérangère Krief, ça fait 2-3 ans que vous n'étiez pas montée sur scène, si je ne m'abuse.
Exactement.
Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 2-3 ans ? Justement, vous avez vécu l'amour pour
énormément
pouvoir vous inspirer.
Énormément de choses. Non, j'ai pas tellement vécu l'amour tout de suite, je dirais. Non, j'ai fait dans l'ordre grosse rupture, mini dépression, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, stage en Ardèche de développement personnel.
Ah, ça, ce que vous racontez, c'est vrai ?
Ouais, tout est vrai dans le spectacle.
Non,
c'est
pas
ça
tout.
Si.
Et moi j'avais un doute.
Ah, on voit la chose encore différemment.
Non, mais c'est intéressant. Je sais jamais si les gens comprennent que tout est vrai.
C'est-à-dire qu'on comprend pas, mais souvent les artistes ensuite brodent un peu. C'est-à-dire qu'ils s'inventent. Le truc en Ardèche, je pensais que c'était un.
Ah non, le stage, j'en ai pas fait qu'un. J'ai fait une grosse introspection et puis j'avais envie de prendre le temps de vivre aussi, de dans mon écriture, de savoir vraiment ce que j'avais envie de faire. Enfin, je sais pas.
Justement, est-ce que c'est pas triste de reconnaître ça, d'admettre ça, mais c'est vrai, ce truc qu'il faut en baver un peu dans la vie pour ensuite être créatif.
C'est une bonne théorie, parce que souvent, je pense qu'on met du temps à d'abord voir le positif dans l'échec. Donc il y a toute la partie où on en bave, c'est là où on n'accepte pas l'échec. Moi, j'ai pendant longtemps dit « Oui, c'est pas juste, pourquoi ça m'arrive à moi, c'est toujours les mêmes, gna gna gna. » Et après, il se passe des choses. Mais tant qu'il y a cette lutte, ça peut durer longtemps en plus, hein. Et pour moi, dans la vie, on a le choix entre traiter son ex de connard pendant toute sa vie ou en faire quelque chose. Et c'est vrai que ces échecs-là, ils sont importants. Et on n'est pas obligé d'en chier, je pense. Je ne pense pas ça, mais je pense qu'on peut tirer profit de tout ce qui nous arrive. Ouais.
Et surtout, Eva, essayez de vous en souvenir, on n'est pas obligé de traiter son ex de connard. Il faut savoir avancer. C'est la leçon de Bérangère Krief. En public, vous l'entendez ? Vous parlez, Bérangère, de Tinder dans le spectacle. Est-ce que vous connaissez un Marmite Love ? C'est un truc assez dark sur lequel on a inscrit Eva Rock, qui, je crois, ne le regrette pas.
Marmite Love,
ouais. C'est maintenant que je raconte cette histoire.
Bah, vous la racontez en plusieurs fois, mais là, vous pouvez déjà nous dire en deux mots ce que c'est.
Alors, Bérangère, cher public, chers auditeurs, mes camarades, mes parents aussi, mais les camarades de cette équipe, enfin camarades, ces enfoirés de cette équipe, ont trouvé très judicieux de m'inscrire sur un site de rencontre qui s'appelle Marmite Love, c'est-à-dire l'alliance entre Love et les gens qui aiment faire la bouffe, ou en tout cas qui aiment manger.
D'accord.
Voilà. Okay. Alors en vrai, c'est quand même que des psychopathes, hein. Et la suite de l'histoire, c'est pour
le mec t'envoie la recette de son bœuf bourguignon pour te draguer ou pas,
si ça avait été ça, au moins ça aurait été informatif.
Il y a des photos
caractère.
Un petit peu aussi.
Allez-y, continue.
Très bien. Alors Bérangère, votre spectacle Amour, c'est du jeudi au dimanche au théâtre de la Gaîté Montparnasse, et c'est pas un spectacle de stand-up conventionnel, hein, pour plusieurs raisons. L'une d'entre elles est qu'on vous retrouve assise sur un cerceau aérien dès l'ouverture du rideau et régulièrement dans le spectacle. D'où vous est venue cette idée ? Déjà, ça paraît dangereux, non ? Enfin,
Alors, ça s'est fait en deux temps. C'est-à-dire que pour le spectacle, j'avais envie de... pas de m'éloigner du stand-up, mais de rajouter des émotions. On avait le rire, mais je voulais aussi que, voilà, il y a de la musique, donc on traverse des émotions. Et l'émotion du cirque, ça m'appelait. Je me suis dit, quand je vois un acrobate qui fait un truc et je me dis, oh, il va peut-être tomber, etc. Bah, je vois que ça a marché,
oui,
parce que vous avez eu peur.
Ah, oui, oui.
Donc je me dis, bon, c'est cette émotion-là que j'ai voulu aller chercher. Et puis après, je suis passée à la pratique et je me suis dit, oh, mais
bonne
c'est
idée.
Extrêmement dur. Et là, je me suis dit, bon, il va falloir beaucoup travailler. Et j'avais besoin, je crois que le cerceau, c'est aussi la symbolique du dépassement de soi. C'est-à-dire que voilà, je ne savais pas faire du cerceau, je me suis dit, ok, je vais faire ça.
Ah, vous n'aviez jamais fait, c'est même J'en pas avais un jamais... truc que vous
non,
saviez
non,
faire.
Non,
vous
non c'est dit, même pas, regardez, je fais un petit... Non, ouais. Non, c'est vraiment, j'ai appris pour le spectacle et j'avais besoin de dire que parfois c'est difficile dans la vie de... traverser des choses, mais que voilà, à chaque fois que je monte sur le cerceau, je suis quand même contente d'avoir réussi.
Et c'est ce que vous dites aussi un peu, c'est sortir de sa zone de confort en fait,
ouais.
À la fois en amour, dans la vie en général,
oui,
et donc ce cerceau symbolise tout ça.
Ouais, il y a trouver son équilibre, sauter, ça fait peur, traverser ses peurs, etc. Et pour moi, c'est ce qui se passe pour tout en fait, toutes les décisions qu'on prend dans la vie. Donc voilà, le cerceau, plutôt que de le dire avec des mots, dépassez-vous, faites des oui. choses, je me suis dit, bon, bah, je vais faire du cerceau moi, c'est une expérience que je propose. Et j'ai l'impression que le message passe.
Est-ce que c'est un spectacle qui vous réconcilie avec les hommes ? Enfin, pas tous en général, mais avec ceux que vous avez connus et...
Déjà, c'est vraiment pas un spectacle... Enfin, c'est le spectacle de l'après-thérapie. Donc, effectivement, j'ai fait la paix, non pas qu'avec les hommes, avec beaucoup de choses. Et donc, j'ai essayé de faire un spectacle... je sais même pas si c'est pour, contre, avec les hommes. C'est pour tout le monde, quoi. J'ai une rupture, je pense que c'est pas genré.
C'est sûr
hein.
qu'on s'y retrouve tous dans
voilà,
ce spectacle.
Donc voilà, j'ai raconté simplement mon histoire. Et oui, je remercie les hommes qui m'ont brisé le cœur, oui.
Eva, pour finir sur une note plus optimiste et montrer que les relations hommes-femmes sont quand même belles, un mot pour les hommes de votre vie ?
Bande de gros cons !
On les embrasse tous ! Enfin, ceux qui sont encore en vie.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage.
Qui est pour vous Bérangère Krief ? Eh bien, on est allé vous poser la question. Voici non pas un micro-trottoir, toujours trafiqué pour flatter l'invité. Voici notre micro-trot-trash. C'est quasiment la même chose, sauf qu'on n'a rien coupé.
Bérangère Krief. Une petite blonde, tatouée. Des petits tatouages mignons, rigolos.
Apprêtée, élégante, prestante.
Un humour un peu chic. Moi, je le vois pas vulgaire. Social, là, c'est chic.
Ah oui, c'est une humoriste, oui. Comique. caustique.
Je crois que c'est une blonde.
Elle clash un peu les mecs, ouais. Ça les remet en place.
Elle a joué dans Bref, je crois.
Ouais, je l'aime beaucoup. Je dirais pas que c'est un humour qui est fin. Non, c'est un humour franc, voilà.
Et je crois, elle a un spectacle aussi.
Je la mets un peu, je sais pas si elle appréciera, mais je la mets un peu avec Blanche Gardin, même paquet.
Oui, les mecs, ils sont lourds quand ils draguent, ouais, c'est vrai.
Non, elle est pas dure. Je la trouve juste. Je trouve qu'elle sent bien l'époque.
Je sais pas si ton père c'est un voleur ou c'est un terroriste parce que t'es vraiment une bombe en fait. Celle-là elle est vraiment nulle.
Très jolie.
Et hyper drôle.
On est plus drôle que les garçons et les filles.
On est plus drôle que les garçons, les filles. Est-ce que vous trouvez qu'il y a un humour masculin, un humour féminin ou pas du tout en fait? Enfin, c'est juste qu'il y a des gens qui sont drôles et des gens qui sont pas drôles et leur sexe n'a rien à voir avec ça.
C'est une grande question. En fait, je crois que en fait on a chacun une part de féminin et de masculin. Pour moi, le masculin consiste à essayer de contourner ses émotions. Donc le rire, par exemple, l'humour, c'est une bonne façon de ne pas dire ce qu'on ressent vraiment. Et dans le féminin, y a d'autres choses qui peuvent être drôles. Par exemple, la sincérité d'une anecdote, quelque chose où il y a un peu d'émotion. Donc je pense que ce qui serait intéressant aujourd'hui, c'est que les femmes fassent de l'humour avec tout ce qu'elles ont de masculin et de féminin, mais pas d'essayer de faire comme les hommes. Et donc voilà, mais après c'est à chacun, il y a des femmes qui vont parler très fort, des hommes qui vont parler moins fort, donc il n'y a pas de, on ne peut pas faire de généralité, je crois.
Vous avez dit dernièrement...
C'est compliqué comme réponse un peu,
c'était compliqué, mais vous allez voir, je vais vous poser une autre question. Vous avez déclaré récemment, je me suis fabriqué ma propre case, quand je fais du théâtre déjà adolescente, on m'a catalogué dans la rubrique humour, j'étais la rigolote, mais malgré moi, on a appuyé sur le bouton drôle à ma place. Vous allez dire par là.
En fait, moi, quand j'étais petite, je cherchais pas du tout à être drôle, en fait. Et les gens riaient de choses que je faisais, mais moi, avec une grande sincérité. Et je raconte souvent mon traumatisme du cours de théâtre. Voilà, on était dans le même cours de théâtre depuis mes 10 ans, et à 15 ans, les filles de mon cours ont voulu faire un drame. Donc, on a monté la Maison de Bernarda Alba de Federico Garcia Lorca, qui est une œuvre très drôle.
Très poète-poète.
Très poète-poète. Cette jeune femme séquestrée par leur mère sous l'Espagne de Franco et qui sont amoureuse d'un mec à l'extérieur. Et en fait, l'après-midi, on a lu pour savoir qui allait jouer quel rôle. Et moi, j'ai lu à la prof, enfin, avec toute ma sincérité, parce que je voulais faire une jeune première. Et la prof a fait « Oh non, laisse Bérangère, on va te trouver autre chose !» Et je me rappelle de ne pas avoir essayé d'être drôle. Et je me suis dit « Ah bon ?» Et du coup, j'ai eu le rôle de la grand-mère folle qui parle à un mouton, qui était toute seule et tout. Et je pense, mon père a les images, il faudrait que je les revoie, parce que je pense que j'ai fait un one-man, mais sans le vouloir.
Comme moi qui rêvais de jouer Shakespeare, on a appuyé sur le bouton drôle à sa place.
16h-18h sur Europe 1, l'équipé sauvage.
Avec Mathieu Noël, Eva Rock et notre rendez-vous gourmand, Délice in Extremis, bien sûr Olivier Pouls, qui a choisi de faire plaisir à l'invité de mardi, le chanteur de Dionysos, Mathias Malzieu, avec une recette de pâte à crêpes.
Mathias Malzieu, je vous présente notre chef à domicile. Une version poilue et belge de Maïté. Un cordon bleu exceptionnel qui cuisine des ingrédients parfois complexes, d'où l'évidente nécessité pour lui de se référer parfois à son petit calepin. Calepin dans lequel il note sa recette et vers lequel il se tourne quand vraiment l'ingrédient recherché est trop rare ou trop technique, comme vendredi.
Une demi-cuillère de sucre et quelques petites gouttes. Alors là, il faut que je retrouve mon truc. Et quelques...
Le professionnalisme, toujours.
Et une toute petite pincée de sel.
Bonjour Olivier Pouls.
C'est le sel de la vie, Mathieu, il en fout toujours
sel,
du sel.
Bien sûr, alors vous avez pris votre carnet aujourd'hui.
Oui, j'ai mon carnet.
Parce qu'attendez, aujourd'hui, au menu de Délices in Extremis, au menu de Délices in Extremis,
vous n'êtes toujours pas.
Vous, au menu ce genre de Délices in Extremis, voilà. La crêpe. Vous travaillez la crêpe dans toute sa splendeur, c'est-à-dire
toute
la pâte à crêpe, et ouvrez votre calepin du sucre, c'est ça? Du sucre.
Oui, du sucre, une crêpe, du
tout
sucre.
Tout simplement.
En fait, une crêpe au sucre.
Alors, lisez-nous cette chronique.
Mathias, je sais que vous aimez les crêpes, c'est une
J'adore
passion
ça.
Pour vous.
Oui. Alors, racontez-nous maintenant comment ne pas rater des crêpes.
Alors, de la pâte à crêpes, tout d'abord, mais surtout après, je vais vous donner la recette de ce que je considère être la plus grande de toutes les crêpes, c'est la crêpe Suzette.
Oh oui, j'adore.
Ça, c'est quand même vraiment quelque chose d'extraordinaire. Donc, la pâte à crêpes, on va y aller rapidement. J'ai mon carnet, alors voyez-vous, hein, 4 œufs, 1 demi-litre de lait, 30 grammes de beurre qu'on fait fondre. 60 ml de bière, toujours un petit peu de bière dans les crêpes parce que ça
Quel type leur de
donne
bière
un côté.
Ambrée,
non,
blonde.
Non, une bière blonde classique parce que la bière va donner un peu de volume. 200 g de farine et une pincée de sel, évidemment.
Évidemment.
Celle-là, voyez-vous, je l'ai aujourd'hui. Et puis, si vous ne savez pas, pas, je vous conseille aussi de regarder sur Internet la recette de la pâte à crêpes telle que la donne le grand chef à l'époque 3 étoiles, Raymond Oliver, en 1954. C'est disponible sur Internet, c'est un document INA. Ça vaut son pesant de crêpes. Vous allez voir, c'est assez extraordinaire. Et puis après, pour la crêpe Suzette, alors voilà comment on procède. Il faut savoir que la crêpe Suzette est une crêpe qui a été inventée, entre guillemets, par maladresse, un peu comme la tarte tatin, par un garçon du Café de Paris à Monaco qui avait malencontreusement renversé de l'alcool du Grand Marnier alors qu'il était en train de préparer des crêpes devant le futur roi d'Angleterre, Henri VII. Et il a évidemment, ne perdant pas son bagout, prétendu que c'était tout à fait volontaire et hop, on flambant ça, il avait donné naissance à la crêpe Suzette.
C'est une histoire qui est presque trop belle pour être vraie.
Mais paraît-il, elle est vraie. Alors la crêpe Suzette, c'est quoi? C'est une crêpe que l'on va remettre dans une préparation dite Suzette, donc du sucre que l'on aura fait fondre dans une poêle bien chaude. On aura rajouté du jus d'orange, on aura rajouté un petit peu de zeste d'orange, du beurre, et on fait flamber au Grand Marnier. Et on fait réduire cette préparation de manière à la rendre parfaitement sirupeuse. Une fois qu'elle est sirupeuse, on reprend une crêpe, on la met dedans, on la roule dedans, et on peut rajouter encore quelques petits zestes d'orange pour terminer. Et là, on a la vraie, l'authentique crêpe Suzette, telle qu'elle avait été inventée, malencontreusement donc, au Café de Paris.
Et là, ma question est, où est cette crêpe Suzette?
Alors, cette crêpe Suzette, eh bien, écoutez, tout à l'heure, je passe chez vous. Le temps d'aller chercher des oranges, des crêpes et du sucre.
Et on invite tous les auditeurs d'Europe 1. Merci beaucoup. Ça vous dit cette recette, la crêpe Suzette? Ça vous intéresse?
Complètement.
Vous êtes preneur? Bon, alors vous venez à la maison aussi. Allez, merci Olivier Pouls, qu'on retrouve tous les samedis dans la table des bons vivants de Laurent Mariotte à 11h sur Europe.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipée sauvage.
Avec Mathieu Noël et Varoc, et à présent le chef cuisinier qui est aussi juré de Top Chef sur M6, Michel Sarran. La nouvelle saison a démarré cette semaine. Vous écoutez bien l'équipée sauvage, c'était donc mercredi sur Europe 1.
Quelle est la différence entre une langoustine et une écrevisse, Eva? On peut raconter ce qui s'est passé hors antenne tout à l'heure?
Alors, je vous explique. Dans le premier... Michel, ne riez pas. Dans le premier épisode de Top Chef, que vous allez pouvoir voir ce soir, avec la musique, vous êtes bêtes. Michel Sarran propose au candidat une épreuve qui s'appelle le monoproduit. Il faut cuisiner dans plein de plein de façons différentes un seul produit. Et il fait la démonstration, et on en parlait hors micro, et je disais, ah oui, votre plat aux écrevisses, ça avait l'air sympa. Et qu'est-ce que vous m'avez répondu?
J'ai eu peur. C'est où est-ce que j'ai mis les pieds?
Parce que c'est pas des écrevisses.
Non. La différence au départ, c'est l'eau. Hein. Il y en a une qui est salée et l'autre qui ne l'est pas. Quoi.
Voilà, c'est la langoustine.
Une légère différence entre la langoustine et l'écrevisse, ma pauvre Eva. Ah, j'ai honte, mais je vous aime quand même.
Alors... Elle ne m'a pas proposé de m'inviter à goûter sa cuisine.
Non, dites-lui un café tout au plus, mais n'acceptez jamais l'invitation à dîner. Michel Sarran, c'est la 11e saison de Top Chef qui démarre. Vous avez intégré le jury en 2015. Et vous le disiez tout à l'heure au début de l'émission, à la base, vous aviez dit non. C'était parce que c'était vous qui ne connaissiez pas ce genre de programme, ou c'était une autre époque où ça paraissait encore, un chef pouvait se demander si c'était bon pour son image ou pas?
Non, c'est par rapport à une expérience que j'avais eue. J'avais fait une première émission qui s'appelait Cuisine Sauvage pour France 5, où j'étais parti avec un espèce de fou, un ancien des forces spéciales. Enfin, c'était assez amusant, on est parti une semaine, c'est une mission très sympa à faire. Et après j'ai été contacté par une autre chaîne, pour une nouvelle émission. Le casting a duré un peu longtemps, ça m'a un peu énervé. À la fin, j'ai pas été pris. Bon, je dis, mais il faut que j'arrête ça, c'est pas fait pour moi. Et lorsque M6 m'a appelé quelques jours après, je pense que j'étais un peu remonté, j'ai dit non.
Non, tout simplement.
Et en plus, c'est vrai que je connaissais pas Top Chef. Vous savez, quand on est cuisinier, on se divertit rarement avec des émissions de cuisine. Quoi.
Voilà. Effectivement. Et Top Chef, ça marche toujours aussi bien, Eva. Hein,
plus de 3 millions de téléspectateurs sur la dernière saison. C'est vraiment une émission qui perdure avec des taux d'audience extrêmement importants.
Et j'imagine qu'aujourd'hui, être membre du jury de Top Chef, c'est très envié parmi les autres chefs. Il n'y a pas d'avoir de chefs qui disent comment je pourrais faire pour intégrer le jury.
Oui, ou même pour participer à l'émission en tant que chef invité. Et quand on voit l'année passée le plateau qu'on a eu la chance d'avoir, d'Alain Ducasse à Pierre Gagnaire, Yannick Aleno, etc. Donc, à une époque, les chefs ne voulaient pas participer. C'était pas très bien vu. Maintenant, c'est une émission qui a vraiment acquis ses lettres de noblesse et qui s'est inscrite dans le paysage gastronomique français.
Et qui fait naître des étoilés aussi.
Ah ben ça,
parce que le nombre de candidats qui sont étoilés aujourd'hui,
ça va de
c'est
soi.
Important.
C'est
c'est là qu'on voit que c'est un concours qui est d'un très bon niveau, avec des épreuves hyper compliquées. Et quand on voit la sortie du guide Michelin cette année, avec Stéphanie Lequellec qui a pris 2 étoiles d'entrée, bon, elle les avait eues.
Elle les a re-eues d'entrée.
Ouais, ouais, ce qui n'est pas évident. Mm-hmm. Adrien Descoules, un candidat que j'avais eu, moi, dans ma brigade il y a 2 ans ou 3 ans, qui a été étoilé en Auvergne cette année, et d'autres, plein d'autres. Non, non, c'est vraiment c'est un concours qui est reconnu.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1.
Je me tourne vers notre invité. Qui est pour vous Michel Sarrat ? On est allé vous poser la question. Voici non pas un micro-trottoir, toujours monté pour flatter l'invité. Voici notre micro-trottrache. C'est pareil, sauf qu'on n'a pas enlevé les vacheries.
Michel Sarrat.
Il est dans l'émission Top Chef. Non, il est. Moi, je le trouve gentil. Hein.
Il est pas mal, mal rasé. Enfin, moi, je préfère quand les gens sont rasés.
Oui, moi, je préfère manger que regarder des gens cuisiner.
Déjà, c'est la cuisine du terroir, de la cuisine de sa région. Je pense que c'est des cassoulets.
Il a un petit accent du sud-ouest.
Et je vais. Non, non, l'eau. Si, et je te baisse. Voilà, mais je ne veux pas dire son ami Philippe, et je te baisse.
Oui, Michel Sarrat. Je vois qui c'est.
Il a des lunettes, il est un peu petit.
Je zappe toute la journée, je tombe sur lui, des fois je regarde, des fois je zappe encore.
Oui, Michel Sarrat, on l'aime bien parce qu'il est sympa.
Il était bleu.
Guillaume Gomez et Michel Sarrat, ils se disputent l'appellation de chocolatine ou pain au chocolat.
Je le trouve drôle, je l'aime bien. Enfin, ça va, il est strict hein, aussi. Hein.
Alors plusieurs informations. Déjà, l'existence d'un collègue à vous qui s'appelle Philippe Echtebèze. Un nom pas simple pour se lancer dans la restauration. Et puis, cette question, ce débat qu'il nous faut enfin trancher sur Europe 1, car on n'a pas peur de traiter les questions de fond. Michel Sarrat, doit-on dire un pain au chocolat ou une chocolatine ?
Je pense qu'on ne va pas revenir là-dessus. C'est chocolatine.
C'est chocolatine.
Voilà.
Un point, c'est tout. Point final voilà. De la discussion.
Désolé, monsieur Gomez.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h.
Et c'est la compilation du week-end avec toute une série de moments marquants à redécouvrir. On reste avec Mathieu Noël et Varrock et l'un de nos journalistes compétiteurs de la rédaction d'Europe 1. Connaissez-vous le wall game, un sport unique dont va nous parler maintenant Jérôme Lacroix.
Sportif jusque dans son intimité, puisque pas plus tard qu'hier, dans le lit conjugal, il donnait encore des conseils à son épouse pour optimiser leur performance.
Ce qu'il faut, c'est varier des différences de rythme, comme au foot, je cours, je longe.
Jérôme Lacroix, c'est d'autres sports dont vous nous parlez aujourd'hui, mais certains sont encore plus acrobatiques.
D'abord l'hymne britannique, pour dire merci. Merci à nos amis anglais d'avoir inventé le jeu dont je vais vous parler cet après-midi, qualifié par certains des esprits moqueurs, voire condescendants, de sport le plus con du monde, trouvé dans la presse suisse, Mathieu Noël, comme par hasard, dans le journal Le Temps. Bon. Ce jeu s'appelle le Wall Game. Alors, je parie que vous n'avez jamais entendu le nom, peut-être je m'avance, mais pourtant il existe depuis au moins 253 ans, 1766, première partie recensée. L'édition 2019 a eu lieu il y a 10 jours en Angleterre.
Ah, il y a quand même des gens qui pratiquent, c'est pas anecdotique.
Devant des centaines de personnes. Bon. C'est un sport de ballon, pour lequel pas de championnat, pas de ligue, ni même de fédération, c'est un sport de collège. Il se pratique uniquement au sein de l'un des plus prestigieux collèges du Royaume-Uni, le King's College, à Eton.
Et qui a fréquenté le King's College autour de cette table?
Vous allez...
C'est Billy.
C'est vrai?
Oui, bien sûr, mon année d'échange.
Ah bah dis donc, oui. C'est à Eton.
J'ai pas foutu grand-chose, hein, j'ai fait beaucoup de sport.
Vous n'avez pas joué au Wall Game?
Non, j'ai pas joué au Wall Game, j'étais pas...
À mon avis, il y a beaucoup de bastons, vous avez hésité.
Il y avait un mec qui avait une grosse voix comme Shuriken, j'y suis pas allé.
Il a fui, c'est près de Windsor. Alors, c'est un match unique, un samedi vers la fin du mois de novembre. Il oppose les étudiants de ce collège. 2 équipes de 10 à ma gauche, les Opidans, les externes. À ma droite, les Collegers, les internes. Le but, c'est un peu comme au foot américain, c'est d'amener le ballon jusqu'à une zone derrière l'équipe adverse. Sauf que ce qui est singulier, c'est le terrain sur lequel se dispute cette rencontre.
Mais j'imagine qu'il y a un mur dans l'histoire, puisque ça s'appelle le wall game.
Alors, on joue sur de l'herbe. Il faut imaginer un couloir. 110 mètres de long, couloir matérialisé par, d'un côté, une ligne blanche continue, au-delà de laquelle le ballon est hors-jeu, ainsi il l'a franchi, et de l'autre, un mur de briques pour une largeur de seulement 5 mètres. Et là-dessus, on va mettre 20 types et un ballon. Alors, comment ça se passe concrètement, les parties? Très vite, le ballon se retrouve coincé contre le mur. Je vous montre des photos si vous êtes avec nous sur Europe 1.fr.
En fait, le ballon se retrouve coincé contre le mur, puisque de l'autre côté, il sort de l'aire de jeu et tous les joueurs qui s'agglutinent, un peu comme une mêlée au rugby.
Le mur de briques rouges, on est vraiment.
Pugilat général avec en prime ecchymose, éraflure sur les coudes, les jambes et même parfois la tête. C'est dû au frottement des joueurs contre le mur.
Franchement, ça ressemble surtout à du grand n'importe quoi, ce wall game.
Il y a des règles très strictes. On n'a pas le droit de courir avec le ballon, par exemple. Il faut faire des passes.
Ah, ça me va bien. Ça.
Et uniquement vers l'arrière. Si vous atteignez l'embut, si jamais vous y arrivez, l'embut adverse, votre point ne sera validé que si au moins l'une des parties de votre corps est en contact avec le mur. Donc, vous voyez, il faut faire
n'importe laquelle.
Il y a aussi un cérémonial très précis pour lancer la partie. Les oppidans, les externes, y jettent chacun une casquette sur le terrain, casquette type années 20, parce qu'il y a aussi un uniforme. Le défi est lancé et les collegers, les internes, montrent qu'ils acceptent en marchant vers eux d'une seule ligne, en se tenant par les coudes, ils font comme un AK. Et là, c'est parti pour 2 fois 30 minutes. Et alors, le sel de ce jeu, je vous disais, 253 ans d'histoire, et ben ça fait 110 ans qu'aucun point, qu'aucun but n'a été marqué lors d'un match. Ça finit toujours à 0-0.
C'est pour ça que les délais sont pas chers, parce qu'il se passe rien. Alors,
110 ans que ce sport attend son but. Et pourtant, il y en a eu des joueurs prestigieux qui ont participé. Si je vous dis Eric Blair, est-ce que vous savez qui c'est ?
Le frère de Tony.
Non, c'est George Orwell, l'auteur de 1984. 1921, il a 18 ans, il participe. Il y a aussi eu des célèbres Prime Ministers, Harold Macmillan, 1909. Et plus près de nous, Boris Johnson, l'actuel Premier ministre.
Je vois la photo sur Europe 1.fr.
Je comprends le sport maintenant.
Oui, moi aussi. Okay.
Il était capitaine des externes en 1982. Alors, c'est un sport traditionnel, bien sûr, mais c'est loin d'être le seul un peu saugrenu. Vous avez par exemple l'ombashira au Japon. Des hommes chevauchent d'immenses troncs d'arbres sur la descente d'une colline en essayant de ne pas écraser la foule qui est très compacte.
Ah, c'est sympa.
Il y a aussi par exemple le chatjai, j'espère que je prononce bien, en Amérique centrale. C'est un jeu hérité des Mayas. Alors là, le but est de se passer la balle en la touchant avec tout, sauf avec les mains et les pieds, donc les coudes, les genoux, les cuisses, ce que vous voulez. Et parfois, la balle est en feu.
Bah oui, parce que sinon c'est trop simple. Si la balle n'est pas
en feu. Oui, sinon c'est pas rigolo.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Et revivez les moments phares de l'émission de Mathieu Noël, autour duquel on retrouve sa complice Eva Rock, un invité d'honneur, en l'occurrence ici l'écrivain Daniel Picouli, que vous avez pu redécouvrir ce lundi sur Europe 1. Il était déjà venu il y a quelques semaines pour nous parler notamment de la fermeture de France O. Et on va le retrouver dans un instant sur un quiz qui va l'opposer à Eva Rock, un quiz spécial Francky Vincent ou pas. Mais avant, le tête-à-tête avec Mathieu Noël.
Et c'est toujours étrange d'accueillir quelqu'un dont on est fan, avec qui quelque part on a grandi.
Jeanne Masse. Ah non, Jackie Quartz.
Non, Eva, ne projetez pas vos idoles sur les miens. Bonjour Daniel Picouli.
Bonjour.
Écrivain, scénariste, homme de télé, on vous retrouve désormais sur France 3 dans l'émission Les Témoins d'Outre-mer. Vous avez une chronique chaque lundi. Les Témoins d'Outre-mer, émission transfuge de France O, désormais donc sur France 3, car France Télé a décidé de fermer la boutique France O en 2020. J'imagine que vous n'avez pas sauté au plafond. Vous comprenez, vous regrettez, vous pardonnez.
Oui, rien à pardonner. Hein. C'est notre président a dit le service public, c'est un scandale. Et alors, première chose qu'ils ont fait, ils ont supprimé France O et France 4. Moi, je me suis dit, peut-être c'est nous le scandale. On va aller voir, on va regarder ça. Là, je plaisante, mais j'étais vraiment déçu, même symboliquement. Quoi. Et moi, j'y travaille depuis près de 20 ans, même si j'ai fait des incursions sur d'autres chaînes. Et il y a quelque chose à défendre de tout ça, il y a quelque chose à montrer. Je fais la littérature, par exemple. Il y a une littérature absolument extraordinaire qui nous vient des Outre-mer ou des Grands Suds. Où est-ce qu'elle va être traitée? C'est un petit peu
sur aussi la question.
Sur France 1. Pour l'instant, il y a eu, en gros, on ferme France O, mais on va montrer la diversité sur France Télévisions. D'accord, c'est ça le message, c'est ça la promesse, plus exactement. Puis après, il faut assurer, il y a 25 propositions, on va peut-être surveiller si la diversité est bien en place.
Vous participez à l'émission Les Témoins d'Outre-mer, diffusée du lundi au vendredi à 8h40 sur France 3, présentée par Nella Bipa. Tous les lundis, vous proposez une chronique intitulée Destin, dans laquelle vous mettez à l'honneur des femmes et des hommes des Outre-mer à la vie exceptionnelle. Alors lundi prochain, 18 novembre, vous nous parlerez du parcours incroyable et éminemment tragique de la mulâtresse Solitude. La mulâtresse Solitude, rien que l'énoncé est fascinant, on dirait une chanson de Michel Berger. Qui est-elle ?
C'est beaucoup plus dramatique. Hein. En 1802, une femme est enceinte. Elle va être exécutée après qu'elle ait accouché. C'est la mulâtresse Solitude, c'est une femme qui s'est révoltée contre Napoléon, qui a voulu rétablir l'esclavage, parce qu'on oublie quand même qu'il y a eu deux abolitions de l'esclavage, et Napoléon a envoyé des troupes en Guadeloupe pour que ça cesse tout ça. Et cette femme s'est rebellée, elle a été faite prisonnière, elle était enceinte et on a un peu attendu tout simplement qu'elle ait mis son enfant au monde pour l'exécuter. Et c'est une histoire qui fait quatre lignes dans l'histoire et qui a été reprise par Schwarzbart qui en a fait un roman et c'est devenu un mythe. C'est-à-dire que cette femme maintenant incarne la résistance des femmes à l'oppression et en l'occurrence à l'esclavage. Voilà. C'est à la fois une belle histoire et ça montre comment un roman peut un jour fabriquer un mythe.
Dans les témoins d'outre-mer, il y a aussi des bonnes nouvelles ou
Non, mais c'est une bonne nouvelle, l'émergence de... Quand vous rencontrez quelqu'un... Moi, ce que je constate en faisant cette émission-là, que beaucoup des destins dont je parle sont inconnus de la plupart des gens.
Celui-là,
ou mal connus, en tout cas. Donc, c'est déjà extraordinaire que de pouvoir faire émerger un destin et que les gens, s'ils regardent les témoins d'outre-mer le matin aussi, c'est aussi pour découvrir, bien sûr, l'outre-mer, le côté... c'est beau, l'outre-mer, on peut avoir des cartes postales à foison, mais aussi de la connaissance, il y a aussi de l'histoire, il y a du patrimoine qu'on partage tous. Donc c'est ça un peu qu'on fait le matin à 8h40, mais de façon beaucoup plus détendue que ça peut y paraître avec un sujet comme celui-là qui est dramatique, bien sûr.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1.
Juste avant de vous tester via notre fameux quiz, j'aimerais savoir si c'est vrai cette histoire selon laquelle vous étiez un cancre à l'école. Vous racontez beaucoup ça et je me suis demandé si c'était pas par politesse vis-à-vis des jeunes qui nous écoutaient que vous aviez un peu exagéré cette cancritude.
Même pas. Non. J'étais un cancre au sens des années 60. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'étais ? J'étais le gosse qui faisait tout ce qu'il fallait pour passer juste et les portes se ferment derrière lui. J'ai des traces de portes dans le dos. Non, c'est tout. C'est-à-dire que moi, j'avais une optimisation de ma cancritude qui consistait à en faire le moins possible, mais pour passer. J'ai jamais redoublé une seule classe. J'avais des professeurs assez bienveillants qui étaient capables de me parler, de me tutoyer et de ne pas me considérer comme un abruti, même si je faisais 26 fautes trois quarts dans une dictée, qui était une espèce de minimum pour moi. Donc c'est simplement même un rapport qu'il y avait des enseignants avec ce qu'on appelait des cancres à l'époque et qui a complètement changé. Aujourd'hui, j'aurais déjà 14 psys. J'aurais vu tout le monde, tout ce qui commence par psy, je l'aurais vu, parce qu'il fallait me soigner de quelque chose qui était la cancritude. C'est tout. Quand je dis ça, c'est uniquement pour essayer de faire modifier aussi le regard sur ces gosses qui sont quasiment martyrisés parce qu'ils ne sont pas aujourd'hui, on est quand même dans la performance aujourd'hui. Il faut être performatif pour un gosse tout petit. À la maternelle, déjà, on commence à les tester. Donc voilà, je veux détendre les parents. Actuellement, il y a des inquiétudes terribles de la part des parents. Ils ont peur de sauter une marche et que leur petit génie qu'ils ont devant eux devienne un rêveur et peut-être même un écrivain. Quelle horreur.
Alors, mon cher Daniel Piccoli, l'heure est venue, non pas d'une dictée, mais d'un quiz qui va vous opposer au cerveau de la bande, Eva Rock. Alors, on aurait pu être vache avec Eva et vous proposer un quiz sur Aimé Césaire. Non. Aujourd'hui, rendons hommage à une partie très particulière de la culture antillaise puisque nous vous proposons de jouer à Francky Vincent ou pas Francky Vincent.
Voilà.
Principe simple, je vous donne des paroles. Vous nous dites si elles ont été chantées par le célèbre chanteur guadeloupéen ou pas. Vous êtes prêts ?
Oui.
Il y a des surprises, je vous l'annonce. Roulage de pelle à la citronnelle, feu d'artifice et vive la fesse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Francky Vincent ou pas Francky Vincent ?
Mais qui doit répondre ?
Vous répondez tous les deux.
Non, je dis Francky Vincent.
Vous dites Francky Vincent ?
Oui.
On écoute la réponse.
Roulage
en
de pelle à la citronnelle, feu d'artifice. Et vive la fesse. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Une chose est sûre. Les amis, c'est que Europe 1 est la seule radio qui vous permet d'écouter dans la même émission le concert de Cologne et Francky Vincent. Merci beaucoup. Sorti en 2012 sur l'album Matisse Métis.
Ah, c'est dingue ça. Quand même.
Attention. C'est moi le coq de la basse-cour. Je suis le prince de l'amour. C'est moi le chef de la basse-cour. Je tire mon coup sans faire la cour. Francky Vincent ou pas Francky Vincent?
Moi, je dirais tout le temps non. Je crois. Je dis non à Francky Vincent.
Non, vous ne pensez pas? C'est vrai que c'est presque trop lettré. Oui. Et pourtant.
C'est moi le coq de la basse. Je suis le prince de l'amour. C'est moi le chef de la basse. Je tire mon coup sans faire la queue.
La musique
ne change jamais.
Je vous en prie d'insulter Francky Vincent.
Il remonte dans mon estime, ce garçon osait.
C'était l'album Le Grand Coq, sorti en 1996. Alors attention, accrochez-vous. On me gonfle la bouche.
Oui, mais encore.
On me gonfle avec la bouche à la taille que l'on veut. Puis après, le bouche à bouche, on fait ce que l'on veut. Francky Vincent ou pas Francky Vincent?
Mais toujours, je dis toujours non.
Vous dites non, Eva?
Moi, je dis non.
Vous dites non ?
Ouais.
Pourquoi ?
Parce que c'est presque trop joli en fait.
Ah, ah oui. On écoute la réponse.
Elle me gonfle avec la bouche à la taille que l'on veut.
Fred Goetti me dit c'est France Gall.
Fred Goetti marque un point même s'il n'est pas invité dans le quiz. Effectivement, c'est France Gall, les petits ballons, paroles de Gainsbourg, ce coquinou de Gainsbourg, quand même le préciser.
C'est juste après les sucettes à la menthe.
C'est juste après les sucettes à l'ANI, oui.
À l'ANI.
Attention, elle aime le cul, elle aime le cul, elle aime le curé du village. Francky Vincent ou pas Francky Vincent, on en est là, on en est là, les amis.
Vous dites non, Daniel Picouli,
encore. Non, tout,
dis non
tout,
tout le temps.
J'ignore.
Et alors
tout.
Moi, je dis non, je dis que c'est pas Francky Vincent.
Non, c'est pas Francky Vincent, mais vous devrez le connaître en tant qu'expert télé. C'était...
Elle aime le cul.
Patrick Sébastien.
Ah oui, ou alors là, en l'occurrence, un imitateur qui imite Patrick Sébastien. Non, c'est Patrick Sébastien, effectivement, dans l'album Sans filtre, qui portait bien son nom.
C'est tourner les serviettes, c'est avec ça.
On pourrait faire le même reproche à Francky Vincent. Patrick Sébastien, là, fait la musicalement, c'est la même chose que tourner les serviettes. Attention, il jouait du piano debout, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Alors, Francky Vincent ou pas Francky Vincent ?
Non, arrêtez, vous pouvez pas faire cette offense. Mais pas Francky Vincent.
Ah, mais je vais dire oui là ce coup-ci. Allez, hop.
Oui.
Mais non.
Eh bien, oh. Oui.
Il jouait du piano debout. Ça peut être un détail.
Allez, non, c'est beau.
Et oui, les amis. C'était Francky Vincent sur son album Le Binôme du siècle en duo avec Evangélie. Alors attendez. Ah, c'est un grand album. Si vous ne l'avez pas dans votre discothèque, c'est une faute. Une faute de goût. Alors attention. Elle avait une jolie frimousse, mais ses mœurs s'étaient dissolues. Elle suçait plus du tout son pouce. Ça veut pas dire qu'elle suçait plus.
C'est pas Francky Vincent.
Francky Vincent.
Non.
Allez, tiens. Allez, vas-y, Francky.
Vas-y, Francky. C'est bon ou pas?
Elle avait une jolie frimousse, mais ses mœurs étaient dissolues.
Qui c'était?
Les colonies de vacances. Hein.
C'était les colonies de vacances, c'était Pierre Perret. Effectivement, les sœurs jumelles sur l'album Les chansons érotiques coquines. Qui remporte ce quiz?
Oh, c'est dingue, c'est tout ça.
C'est Eva qui remporte le quiz.
Bravo, yes.
Ah, ça, c'est un événement rarissime. Je crois qu'on peut effectivement l'applaudir.
Sur Francky Vincent.
Francky Vincent.
Europe 1, 16h-18h. L'équipe est sauvage.
Avec Mathieu Noël et Varoc et avec à présent l'un de nos compétiteurs chroniqueurs, le monsieur cinéma d'Europe 1, Mathieu Charrier, qui a choisi d'évoquer l'histoire d'un héros mais détesté. C'était mardi sur Europe 1 en présence de Mathias Malzieu, le leader du groupe Dionysos, qui était venu entre autres nous parler, lui, de son second film, un conte fantastique et fantasque, baptisé Une sirène à Paris.
Voici celui qui est au journalisme ce que le Milan AC est au football italien, un club qui est plus proche de la zone de relégation que des avant-postes, mais qui croit toujours être un cador.
Enfin. Attends, il y a Zlatan qui est arrivé.
Oui, mais est-ce que ça a changé quelque chose? Hein, c'est pas encore fameux, c'est pas le Milan AC de notre jeunesse. Mathieu Charrier, mais avant de nous livrer. Alors vous êtes encore plus mal que le Milan AC, en
c'est
fait.
Pas vrai.
C'était presque un.
C'est faux.
C'était flatteur, ma comparaison. Mathieu Charrier, avant de nous livrer votre chronique, un petit mot fair play à votre adversaire du jour, l'heure d'Autriche.
Dans la jungle, le lion ne survit pas en se comportant comme un roi, mais en étant le roi.
Bien, le ton est donné. Je vous laisse nous raconter l'histoire de Richard.
Richard? Oui, je ne sais pas si vous voulez le dire à l'américaine ou en français.
Dites-le vous.
Richard Jewell.
D'accord. C'est encore pire que moi.
Richard Jewell.
Sinon, on va dire Richard.
Richard Bijoux, l'homme qui a inspiré le dernier film de Clint Eastwood.
Oui, parce qu'effectivement, l'histoire, elle est assez incroyable. On est en 96, aux Jeux Olympiques d'Atlanta. Notre héros, donc Richard Jewell, est un homme sans histoire. Alors, il n'est pas très sexy, hein, faut bien le dire. Il vit toujours avec sa maman, il est en surpoids, il n'est pas très beau. Lui, ce qui l'intéresse, c'est l'ordre et la rigueur. Donc, évidemment, il rêve d'être policier. Donc, quand il se retrouve à être recruté pour être agent de sécurité lors des JO, vous imaginez la fierté qu'il va ressentir. Il enfile sa casquette avec marqué sécurité en gros dessus et c'est parti, il part en mission. Et
il va sauver des dizaines de vies.
Oui, parce que pendant l'un des concerts, pendant l'une des fêtes de ces Jeux Olympiques, il va remarquer un sac à dos abandonné sous un banc. Alors, il commence par prévenir les policiers parce que lui, il n'est que agent de sécurité. Mmh. Les policiers le prennent un peu de haut, vous savez, ils le regardent comme ça, oui, c'est ça, circuler. Puis, devant son assistance, ils vont quand même aller vérifier ce qu'il y a dans ce sac sous le banc et ils vont découvrir qu'effectivement, le sac contient une bombe. Il commence à faire évacuer les gens, évidemment, dans la panique. La bombe explose pendant que l'évacuation est toujours en cours, mais elle ne tue que, entre guillemets, deux personnes. Richard Jewell vient de sauver des dizaines, voire même des centaines de vies.
Donc on imagine logiquement qu'il est devenu un héros.
Oui, puis non. C'est-à-dire qu'il est un héros, effectivement, pendant quelques jours. Alors, il enchaîne les interviews devant les caméras du monde entier, interviews durant lesquelles il se contente de dire qu'il a fait son devoir, ni plus ni moins, vous savez, c'est toujours ce personnage que je vous décrivais. Mais au bout d'un moment, il y a certains enquêteurs qui se demandent quand même comment il a pu tomber sur cette bombe par hasard. Lui qui n'a pas beaucoup d'expérience dans le domaine de la sécurité, il commence à le soupçonner, à mener leur enquête. Et sa fuite, il y a un journal local qui décide de le mettre à sa une, sans rien vérifier. Le héros devient le suspect, ça va lui pourrir la vie. Les médias, des centaines de médias du monde entier vont squatter son jardin. Les gens dans la rue lui tournent le dos, sa vie devient un enfer. Et surtout, il est tellement honnête qu'il n'arrive même pas à se défendre. C'est-à-dire qu'il respecte tellement les policiers parce qu'on lui a toujours inculqué qu'il fallait respecter l'ordre et la rigueur que quand il répond aux interrogatoires, il ne cherche même pas à se défendre, au grand dam évidemment de son avocat.
Et alors il est condamné ?
Alors non, il va être innocenté dans le procès quelques mois plus tard. Mais le doute va persister dans l'opinion publique jusqu'à ce que seulement six ans plus tard, le véritable coupable et le véritable homme qui a déposé la bombe soit arrêté et condamné. Mais Richard Jewell, il a tellement mal vécu cette histoire qu'il a fait plein de maladies cardiovasculaires, etc. Il ne s'en est jamais remis. Il est mort à l'âge de 44 ans, prématurément, sans avoir vraiment, réellement été réhabilité.
Alors, on comprend que les ingrédients sont réunis pour piquer la curiosité de notre ami Clint. Mais est-ce que le film est réussi ?
Très, déjà c'est un super thriller et puis c'est un film qui raconte quand même plein de choses de notre époque déjà dans les années 90 parce que je pense que si J. Wells avait été un grand et beau garçon, il aurait un petit peu plus correspondu à l'image que pouvaient se faire les États-Unis du héros américain tel qu'on peut l'imaginer, tel qu'ils peuvent l'imaginer. Et je suis pas certain que sa culpabilité ait été mise comme ça, aurait été mise à la une du journal local. Là, il est petit, il est gros, il est pas très intelligent, donc c'est un peu le héros qu'on n'a pas très envie d'avoir. Et puis il y a aussi quelque chose que montre très bien le film, c'est comment ce journal local va décider de mettre à la une la possibilité que peut-être éventuellement ce soit le poseur de bombes, alors qu'il n'y avait à ce moment-là aucune preuve, il y avait juste une enquête du FBI classique, et ce journal le met à la une pour la course aux scoops, ce qui est un peu ce qu'on vit encore aujourd'hui quand vous regardez avec les chaînes d'information continue. Donc ils n'ont rien inventé. D'ailleurs, il y a une polémique aux États-Unis depuis que le film est sorti, parce que dans le film, Clint Eastwood laisse entendre que la journaliste qui a sorti cette information sans la vérifier l'aurait en plus obtenue en couchant avec l'agent du FBI.
Alors il peut rajouter un peu de fiction dedans,
mais quand vous faites des films très ancré comme ça dans la réalité, que vous racontez des héros ordinaires, c'est compliqué de rajouter de la fiction. Lui, il dit que c'est, selon lui, la vérité.
D'accord.
Donc voilà, vous savez, Eastwood, depuis quelques années, il enchaîne les films sur les héros anonymes. Il y a eu le 15h17 pour Paris, American Sniper, il y a eu Sully, qui était joué par Tom Hanks, je ne sais pas si vous vous rappelez, sur ce conducteur, ce pilote d'avion.
Oui, ce grand pilote. Pour réussir à poser l'avion
sur le Hudson,
c'est plus qu'un conducteur. À mon avis, il a le droit au titre de pilote. Enfin, moi, je lui donne.
Mais sauf que lui, déjà, rappelez-vous, déjà dans le film, il montrait comment derrière il y avait eu un procès parce que les assurances ne voulaient pas payer. Parce qu'ils essayaient de prouver qu'en fait, s'il avait vraiment bien réfléchi, il aurait pu retourner à l'aéroport et il n'aurait pas été obligé de se poser sur l'Hudson. Le mec, pareil, a sauvé quand même des centaines de vies. Ouais. Donc voilà, c'est dans cette veine des films-là. C'est un film qui est très réussi et effectivement, l'histoire de ce Richard Jewell, elle est tout simplement dingue.
Mathias Malzieux, Clint Eastwood, ça fait partie de vos réalisateurs que vous suivez avec intérêt ou pas du tout ? C'est pas votre cas ?
Si, complètement. Et puis ne serait-ce que aussi le personnage depuis le début quand même.
Ouais.
C'est en tant qu'immense fan de western, c'est sûr qu'on peut que suivre son parcours derrière.
Vous irez le voir le film ?
Oui, je vais aller le voir.
Vous imaginez à 89 ans continuer à faire des films comme ça ? Alors après, on l'a critiqué pour ses prises de position politique, etc.
Oui, c'est sûr que je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit non plus, c'est sûr.
Mais en tant que cinéaste.
Mais il a quand même des choses à raconter. Même quand on n'est pas d'accord avec lui, ce qu'il raconte est intéressant.
Et surtout, il sait le raconter. Même si on n'est pas d'accord avec le propos du film, la manière dont il le raconte est toujours prenante. Merci Mathieu Charrier.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Avec Mathieu Noël, bien sûr, Eva Rock et à présent Frédéric Michel, le 14 février dernier, lors de l'émission publique et en présence de la comédienne Bérangère Krief, il a choisi de parler du carnaval. Alors vous écoutez l'équipe des Sauvages, bien sûr, avec un Mathieu Noël en grande forme.
Mais il y en a un qui est encore plus chaud que les autres, et pour cause, il vit à l'année à Nice. C'est notre correspondant en PACA, Frédéric Michel. Bonjour Frédéric.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Alors Frédéric, à Nice, c'est une institution, un des moments forts de l'année. Le carnaval démarre demain, comme dirait une locale.
Il y a des préservatifs qui vont changer de couleur.
C'est joliment dit, c'est imagé, mais il faut se figurer la chose. Alors c'est le troisième carnaval au monde. Ce week-end débute la 136e édition déjà du carnaval de Nice. Alors Frédéric Michel, pendant 15 jours, Nice va être la capitale mondiale de la mode.
Effectivement, Mathieu, c'est le thème retenu cette année. Magnifique, dirait votre copine Christina, avec beaucoup de couleurs, beaucoup de volume et des éléments qui rappellent la mode. Et on a hâte d'être à demain après-midi, au moment de la grande parade, pour enfin voir le roi avec ses lunettes noires à la Karl Lagerfeld et la reine coiffée d'une capeline sur laquelle poussent des palmiers et où le dôme du mythique Negresco a été reproduit. Alors, le roi et la reine de ce carnaval sont eux aussi très impatients. de pouvoir prendre l'air. Pendant des mois, ils sont restés au secret dans des ateliers où des dizaines de petites mains leur ont donné vie. Ces chars articulés, ils sont près d'une vingtaine en 3D et qui grimpent pour certains jusqu'à 17 mètres de hauteur. Ces chars sont encore confectionnés par des Niçois passionnés. Chez les Povignat, 7 générations se sont déjà succédées. Pierre Povignat est la 5e génération et avec ses enfants et petits-enfants, il a conçu cette année le char du roi.
La construction, c'est à peu près 4 mois, 5 mois de l'année, mais après on y travaille toute l'année, on y pense toute l'année. Et...
Il va ressembler à quoi alors ?
Il a un look très, très, très couturier, on va dire, en reprenant un peu des bases de plusieurs couturiers. La couture, c'est la France, donc il y a une tour Eiffel sur ce char-là, vous voyez, il y a plein de choses, des symboles qui font la couture.
Et en plus des chars, il y a les traditionnelles grosses têtes. Alors on va jouer, Mathieu, tout autour de la table, est-ce que
oui.
vous êtes prêts ?
Allons-y,
est-ce que vous
allons-y.
Connaissez les fameuses grosses têtes en carton-pâte ? Combien de kilos pour une grosse tête ?
Une quarantaine.
22.
Un peu moins. On est en fait à 10 kilos. Mais vous avez
elles
sont en
quoi
kilos, c'est important. En
papier,
alors,
mâché,
en
ouais,
papier mâché.
Ah oui, d'accord.
En carton pâte. Et vous avez des plus légères, plus modernes, à 4-5 kilos. Mais connaissez-vous la distance que parcourt un porteur de tête ? Là, c'est beaucoup plus impressionnant.
Il fait toute la promenade des Anglais.
On n'était pas loin de
40
kilos. C'est plutôt 40 kilomètres. C'est le parcours d'un marathon, près de 42 kilomètres.
Vous l'avez pas fait ça ? Vous avez jamais été sous une grosse tête, Eva ? Si j'ose dire.
Non, je ne veux pas avoir la grosse tête, si vous voyez.
Très bien. L'an dernier, Frédéric, le carnaval de Nice a réuni plus de 200 000 personnes. C'est une véritable industrie pour la ville.
Oui, là, je parle à Emmanuel Duteil, qui s'y connaît bien. Effectivement, avec 30 millions d'euros de retombées économiques, 1800 emplois directs autour de la manifestation. C'est un énorme business, mais la magie continue à opérer. On a parlé il y a un instant du corso carnavalesque, mais le carnaval de Nice, ce sont aussi, et vous l'avez oublié, les batailles de fleurs, environ 3000 tiges par char, 20 tonnes de mimosa, et le carnaval est aussi dans la rue. D'ailleurs, je ne sais pas, Mathieu et Eva, ce que vous avez prévu comme déguisement, mais sachez que déguisé de la tête aux pieds, vous entrez sans payer, c'est le bon plan du carnaval de Nice.
Vous allez en tournée là-bas ou pas ?
Moi, j'ai de la famille à Nice et j'ai joué à Nice, mais l'été, j'ai jamais été au carnaval.
Ah, mais c'est sympa, le carnaval.
Mais je note, vraiment. J'adore. Ouais.
Et Emmanuel Duteil, il va être content parce qu'il y a même la reine d'Angleterre sur un char.
Ah, oh, c'est vrai. Ouais. J'espère qu'elle est bien faite. Hein.
Oui, elle est très bien faite.
Bon, la reine
elle
d'Angleterre
fait son salut.
Est toujours bien faite. Merci Frédéric Michel.
Merci.
Bon retour à Nice, mon cher Frédéric.
16h-18h sur Europe 1, l'équipé sauvage.
Avec Mathieu Noël, Eva Rock et deux membres du groupe IAM, Akhenaton, Shuriken, qui étaient venus nous parler de leur album Yasuke il y a quelques semaines.
Rêve de bagnole, de fringue et de thune, de réputation de dur, pour tout ça il
Akhenaton et Shuriken du groupe IAM sont nos invités cet après-midi. Alors là, ceux qui disent que je me sers de mon émission pour recevoir mes idoles, franchement, eh ben ouais, grave. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Alors IAM, c'est évidemment ça, mais c'est aussi ça en 2019.
Je vandalise le rap simple comme ABC. Tu entends le son de loin dans nos tirs quand les vitres sont abaissées. J'ai ce fond dans mon système, il faut des rimes qui se tiennent. Et toutes celles et ceux qui sont pris viennent.
Yasuke, nouvel album, comme chaque fois avec vous, on en a pour notre argent, messieurs, pas moins de 16 titres. Moi, j'aurais fait deux albums, comme ça j'étais peinard pendant 4 ans, pas vous. Alors, un mot déjà de la pochette qui est sublime, c'est inspiré du radeau de la Méduse de Jéricho, version 2019, avec un mec qui fait un selfie, un banquier qui perd sa chemise, et Yasuke, l'esclave africain qui va devenir samouraï au Japon, on va parler de ce symbole. Mais déjà, en gros, c'est quoi ? C'est un portrait du bordel ambiant avec une touche d'optimisme ?
Exact, c'est un très bon résumé.
On aurait bien voulu que ce soit l'inverse.
Ouais. C'est plutôt la... parce qu'on voit la mer est déchaînée,
mais au fond,
mais au fond
bien.
La mer est calme.
Nous, ce qu'on a envie de dire à travers cette pochette, c'est qu'on n'est pas forcé d'aimer les gens avec qui on est installé sur le radeau, qui symbolise la société, mais au bout d'un moment, il va falloir
réfléchir
à comment aller dans la même direction.
Entre eux, ouais. Mais par contre, on n'a pas le choix. Quoi. On est sur le même, il faudra bien qu'on trouve un moyen de s'entendre pour y arriver ensemble. Sinon, on ne fait plus de gosses, on ne fait plus rien, enfin...
Quand vous avez créé IAM en 1989, le rap n'était pas encore un courant musical reconnu. On ne savait même pas s'il durerait, ce courant musical. C'était aussi un courant musical lié exclusivement à la jeunesse. Aujourd'hui, on peut le dire, vous avez tous les deux dépassé les 50 ans, vous rappez toujours aussi bien. Et le rap est lui devenu une énorme industrie qui domine même toute l'industrie musicale. Est-ce que ça, au tout départ, quand c'était encore artisanal, j'ai envie de dire, vous pouviez imaginer ça ?
Je ne pense pas. On a toujours été dans le fait de faire de la musique et de faire un disque, celui qui suit. Et puis après, on verrait ce qui se passe. On n'était pas dans un phénomène de mode. On était persuadés, par contre, que le rap allait durer. Mais en ce qui nous concernait, nous, on était vraiment dans l'immédiat ou le lendemain proche, mais pas du tout la projection dans les années 2000 ou 2010 ou 2020 même. On est très fiers de ce qu'on a, fait, et surtout on mesure chaque jour en se levant la chance qu'on a de, faire ce qu'on fait.
Alors cet album Yasuke vous ressemble, Ayam, il n'est pas manichéen, il est introspectif plus qu'ego trip. Est-ce qu'il n'y a pas un fossé entre le rap tel que vous le défendez, tel que vous l'avez toujours conçu, et le rap qui cartonne parfois chez les jeunes? On pense à Booba, on pense à Kaaris, où c'est plus dans l'anathème, où c'est plus une forme de, violence.
Ça s'est élargi.
On vous sent très différent.
Ça s'est élargi. Ça s'est élargi, c'est tout, ça s'est beaucoup plus diversifié. Le rap que nous pratiquons et qui se pratique encore, hein,
oui, bien sûr.
C'est juste la différence, c'est que c'est plus le rap mainstream. Aujourd'hui, il y a les outils pour aller le chercher, on peut plus dire, on peut plus se plaindre qu'on nous impose la musique. Donc c'est un rap qui se produit encore, qu'on écoute encore, mais c'est juste que c'est plus le rap qui est mis en avant. Ça s'est énormément diversifié, édulcoré, mais le tronc commun, pour nous, ça reste le hip-hop. Après, au fur et à mesure des générations, peut-être qu'on est beaucoup moins à se revendiquer de cette culture. Mais c'est pas non plus une obligation non plus. Il y a plein de gens qui font uniquement du rap comme faisant de la musique et de qui on se sent très proche parce que l'état d'esprit, parce que les valeurs de partage et de sont là aussi.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1.
Je suis simultanément ému et fier de vous présenter la rencontre au sommet entre trois fiertés de la Côte d'Azur, trois génies des mots qui ont porté haut tout au long de leur carrière notre belle langue française, faisant sonner les mots comme personne, surtout à Kenaton et Shuriken. Il faut avouer que pour Eva Rock, ce fut parfois plus approximatif.
Je pense, par oui, rapport à tous les autres titres dont il a eu droit.
Auquel il a eu droit. De toute manière, l'heure est venue de les départager.
M'agacé.
Enfin, c'est la séquence dont auquel vous attendez tous. Voici le quiz. Le principe est très simple aujourd'hui. Je vous donne des citations, vous me dites rap ou pas rap, selon si d'après vous ces phrases viennent du rap français ou pas du tout. Chacun son tour, c'est parti. Eva Rock, si je vous dis rien de plus sale que l'amour propre, rap ou pas rap?
Qu'est-ce que vous en dites les copains?
Ah bah non, ah bah,
Fred Doati et Jean-Philippe,
Bannes.
Bah, ils sont pas d'accord avec
moi,
la tête qu'ils
pas,
font.
Je le sens pas.
Non, alors on va
ça
dire non.
Ça me paraît un peu cliché.
On dit non.
Ça vous paraît un peu cliché, Fred Doati? Oui, c'est Marguerite Yourcenar, effectivement. Pas rap.
Ouais.
Ayam, c'est à vous. Si je vous dis, comme Kennedy, ich bin ein Berliner, et s'il était à Hambourg, il aurait dit ich bin ein Hamburger. Rap?
Non,
pas rap. Quelque part, attention à ce que vous allez répondre.
J'espère.
Vous êtes déjà fâché avec John Williams? Attention. Attention à ce que vous allez dire, Kenneth. Je vous aide. J'espère pas rap. Non, je n'aime pas le début de cette phrase, Kenneth.
J'aimerais pas rap.
J'aimerais pas rap? Oui, rap.
Comme Kennedy, je bin ein Berliner, s'il était à Hambourg, il aurait dit
je bin ein Hamburger.
C'est notre ami MC Solar, qu'est-ce qui s'est passé? MC Solar dans le titre Au clair de la lune.
Oh,
un ami
ouais.
Certainement de
oui.
Mais bien sûr.
Elle est dure celle-là quand même. Claude, elle était dure celle-là.
Il a été éclairé là quand même. Il fut éclairé là.
Et Varrock, si je vous dis, lorsque tu as le cul entre deux chaises, achète-toi un canapé. Rap ou pas rap?
On dirait une pub Ikea.
On dirait du Francky Vincent.
Ouais, hein. Francky Vincent.
Monsieur connaisseur.
Ah, tiens, vous savez, on va dire rap.
Bah, pas rap. C'était Smaïn.
Ah, c'était Smaïn.
Oui, tout simplement.
Mais c'est un sketch.
Ah, bah, je ne sais pas. C'est Smaïn.
Mais en même temps, c'est une punchline. Donc.
C'est une punchline, tu vois, ça aurait pu
être.
Ayam, si je vous dis, je me suis déjà mis à la place d'un handicapé, surtout à celle du parking. Rap ou pas rap?
Ça c'est rap, à mon avis.
C'est gangsta.
C'est gangsta.
C'est Thug Life rap.
C'est Thug Life. Eh ben non, pas du tout, mais ça aurait pu. C'est Gaspard Proust.
Ah non.
C'est une
rap
de Gaspard Proust.
Elle est magnifique.
Barré, mais entre le rap et le stand-up, il n'y a pas vraiment de grande
différence.
C'est
vrai qu'il y a des phrases
c'est vrai
qui
que là, c'est vrai que les phrases, elles viennent toutes de quelque chose qu'on pratique régulièrement, nous aussi. Ouais.
Eva Rock.
Oui.
Le husky, c'est un chien de traîneau. Le chihuahua, c'est un chien de traînée. Rap ou pas rap?
Ah bah alors, là, je suis sûre que c'est pas Marguerite Yourcenar.
Visiblement, ça plaît à Kenaton et Shuriken.
Ça me fait rigoler, ce genre de conneries.
Allez, je dis oui.
Ouais, rap.
Oui.
Écoutons.
Croire qu'on pourrait être charmant ou pour être aimé, le husky c'est un chien de traîneau, le chihuahua c'est un chien de traînée.
Cette déco.
Cette déco dans la chanson Dodo la Saumure, ça fait beaucoup Dodo de poésie d'un seul coup. Ayam, cette question va vous départager, même si je pense que vous allez l'emporter. La vie est un film où tout le monde a un rôle à jouer. Le problème c'est qu'il y a trop de séries B. Rap ou pas rap?
C'est des paroles de Joe.
Oui.
Alors, je vous mets dans la confidence. Le génial inventeur de ce quiz m'a dit, on sait jamais, ils ont fait tellement de titres, peut-être qu'ils vont oublier. Non, je pense pas qu'ils aient oublié. Bravo. C'est Ayam qui remporte le quiz aujourd'hui. Alors, Akhenaton, Shuriken, vous avez démarré début des années 90. Est-ce que, si on vous avait dit à cette époque que 30 ans plus tard, vous seriez là avec un 10e album, est-ce que vous auriez cru que c'était
que c'était quelque chose du domaine du possible.
On a vraiment, il y a non, toute une partie des années 80.
On s'est jamais projeté si loin. De toute façon, on se projetait sur la tournée qui suivait le disque, et sur le disque qui suivait la tournée, et sur la tournée qui suivait le disque, et ainsi de suite. On se projetait pas si loin, non, pas du tout.
J'ai entendu sur une radio concurrente, mais peut-être que c'était sur Europe 1, un animateur qui était vraiment un peu débutant, vous confondre avec NTM. J'ai entendu ça, on l'entendra peut-être dans les jours qui viennent. NTM, ils ont commencé quasiment en même temps que vous. Il y a eu des rivalités, comme on disait à une époque, ou c'est juste...
Ils ont commencé après, quand même.
Ils ont commencé après.
Moi, j'ai commencé à rapper en 84, en fait. C'est pas le début des années 90.
J'avais 2 ans.
Voilà, 84. Après, on a commencé à faire nos premiers concerts en 85-86, jouer à rejoindre groupe en 87. Et le premier disque est sorti à New York. Donc en fait, il y a toute une histoire avant de la planète Mars qui est une histoire de scène, en fait, de live. Et on a rencontré NTM au début des années 90. Il n'y avait pas réellement de rivalité, mais je pense que
c'était juste, vous étiez les deux plus gros vendeurs, j'imagine.
C'est aussi une histoire, un modèle rock qui est calqué sur un mode sur,
oui,
sur,
c'est
sur
ça,
le rap.
C'est les Beatles,
en fait,
et les Rolling Stones, voilà. Quoi. Et ça marche bien
pour les
deux, en fait.
Pour les deux.
Voilà. Yasuke, c'est le titre de leur 10e album. L'équipe d'IAM est avec nous aujourd'hui sur Europe 1.
Europe 1, 16h, 18h. L'équipe est sauvage.